Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 10. Je suis David Manise, instructeur de survie et mouton à 5 pattes professionnel. Et aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Joël Schuermann, principalement formateur en premier secours, mais aussi rédacteur-chef de plusieurs magazines, auteur, voyageur, défenseur de la faune. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui et de le faire rencontrer parce que c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la survie, etc., mais que j'aimerais vraiment qu'il soit davantage connu, pour résumer. Ok, alors Joël, bienvenue, merci de venir nous rencontrer aujourd'hui.
Salut David, merci de me recevoir et c'est cool, je suis content d'être là.
Eh ben, c'est hyper cool, je sais que tu es super occupé, comme d'habitude, mais particulièrement en ce moment, donc c'est d'autant plus apprécié et que tu dégages du temps pour nous raconter un peu ton parcours et tout ça, c'est hyper cool. Alors,
plaisir.
On commence par le commencement, on commence par le début, t'es né où ?
Ok, moi je suis né en Belgique, dans la banlieue de Liège, donc finalement dans la banlieue de la banlieue de la province du pays de banlieue. Et voilà, donc je suis né dans une petite commune au large de Liège.
En campagne.
C'est ça, en campagne de la campagne.
Yes.
Bah, par contre, je suis né, j'ai passé mon enfance à Herstal, et Herstal, c'est quand même le fief de la Fabrique nationale d'armes. Donc voilà, j'étais petit, bercé par le test des canons et des mitrailleuses, puisqu'à l'époque, tous les bancs d'essai étaient encore là-bas. Bon, depuis, c'est une entreprise. Donc là, je parle de quelque chose qui se passait il y a plus de 40 ans. Et donc là, évidemment, c'est plus comme ça. Mais petit, voilà, j'habitais dans cette commune. Et c'est vrai que voir les trains avec les canons qui sortaient de la fabrique et qui partaient vers les clients, je pense que ça a dû influencer ce dont on parlera sûrement après. Voilà.
T'es tombé un peu dans la marmite quand t'étais petit, quoi.
Exactement. En tout cas, ça faisait partie de mon paysage tout petit.
Yes. Tes parents, ils faisaient quoi?
Alors moi, j'ai jamais connu ma mère et... Et donc, quand je suis né, elle avait 17 ans et mon père 19, donc ils étaient très très jeunes. Et je viens vraiment d'un milieu assez défavorisé, sans faire causette, mais voilà, ils étaient déjà fort jeunes. Donc et puis donc j'ai jamais connu ma mère et mon père était pas apte à s'occuper de moi. Donc ça a été plutôt les familles d'accueil, etc. Mais mon père, pour répondre clairement à la question, lui, il était toiturier, il faisait des toits, il était couvreur.
D'accord.
Et puis, ma mère, j'en sais rien.
Et du coup, tu as grandi dans plusieurs familles d'accueil, tu as changé plusieurs fois, tu as grandi plutôt dans une. Comment ça s'est passé?
Au début, j'ai plutôt grandi en famille d'accueil parce que mon père était inapte pour différentes raisons à s'occuper de moi. Et donc, j'ai pas mal bougé parce qu'à l'époque, les familles d'accueil, alors je ne sais pas trop comment ça marche aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était pas trop, trop regardant. Il y avait le système de primes qu'on donnait aux familles d'accueil. Donc, des fois, la motivation n'était pas toujours spécialement la bonne. Et donc, j'ai bougé très régulièrement. De lieu de vie, mais toujours dans la même région jusqu'à assez tard en fait où là j'ai pu retrouver mon père qui lui avait entre-temps stabilisé sa situation et donc là j'ai passé 3 ans avec lui. Où là, moi, déjà à ce moment-là, ce qui allait suivre était déjà décidé dans mon esprit. Donc après 3 ans, je suis parti. Je suis rentré à l'académie militaire et ça, c'était ma porte de sortie.
Ouais, t'as trouvé ta famille dans l'armée, quoi.
Exactement, exactement. Je parlais encore de ça hier et c'est un peu ça. J'ai trouvé notamment une famille et puis des tuteurs et puis des exemples et puis un cadre aussi et une sorte de stabilité dans l'instabilité. Et c'est ce qui, je pense, a défini après mon mode de vie et qui est toujours celui d'aujourd'hui, une sorte de stabilité dans l'instabilité.
Ouais.
Parce que l'armée, elle oblige à ça, tu bouges beaucoup, mais en fait, le fond est toujours le même. Il est très normé, très balisé. Et donc, pour moi, c'était assez rassurant, quelque part. Et puis après, par contre, les choses, elles bougent tout le temps. Les missions changent, les lieux changent, les unités changent, les pays changent. Mais le fond reste toujours ses balises. Et voilà.
Ouais, t'as une sorte de noyau qui est stable et puis après tout le reste peut bouger, tu t'en fous quoi.
Exactement.
Yes. Et du coup, t'es rentré à quel âge à l'armée? T'étais.
Mais j'étais vraiment gamin, moi. Je suis rentré chez les cadets et je pense que c'est quelque chose qui est même plus spécialement possible. Alors, en France, je pense que c'est encore possible, hein, mais en Belgique, ça l'est plus aujourd'hui. Donc moi, je suis rentré, j'ai préparé l'examen pour l'école des sous-officiers et je suis rentré, je devais avoir 15 ans et demi.
Ah ouais.
15 ans et demi.
Du coup, tu savais ce que tu voulais faire dès le début, c'était tout tracé, quoi.
Bah, disons que le peu de fois où je voyais mon père petit, les seules choses, les seuls messages que je retiens de lui, au-delà de son amour pour le travail bien fait, c'était ses souvenirs de l'armée. Il avait fait son service militaire obligatoire qu'il avait prolongé d'un an. Et quand je l'entendais, c'était toujours ses meilleurs souvenirs, quoi. Il y avait ce message-là qui venait de lui. Et l'autre message, c'est « Mais te laisse jamais enfermer dans la vie qui est celle que moi j'ai. Fais quelque chose qui vraiment plaît et essaye de vivre l'aventure. » Voilà. Et ça, c'était son message. Et puis il n'avait pas trop de thunes, donc voilà, c'était un jour il m'a offert un cadeau. Je pense que c'est un des seuls que je me souviens de quand j'étais gosse. Je devais avoir 7-8 ans, et c'est une histoire que je raconte souvent parce que enfin, que je raconte souvent, que je raconte parfois plutôt, mais bref, parce qu'il m'offre un vieil atlas avec tous les pays dedans, mais fractionné par petits rectangles. Et je me souviens que je rêvais vraiment de ces noms de déserts en Afrique et tout, et surtout d'une ville bien précisément, c'était Tombouctou, parce que je trouvais que ça sonnait super bien et ça me donnait envie d'aller à Tombouctou. Et je me souviens vraiment avoir dessiné autour de ce truc, et puis après je le réouvrais et je redessinais autour, et puis j'ai dessiné des petits palmiers, puis j'ai dessiné une Jeep 4x4 qui allait vers cet endroit. Et je ne savais pas précisément où c'était, quoi. Et très longtemps, ça a été mon rêve d'aller à Tombouctou. Et il a fallu attendre très très longtemps, 2015, pour que je sois envoyé en mission là-bas. Et j'étais à Tombouctou. Et donc, et là, il y a eu comme une impression de boucle bouclée, qui était vraiment. Je ne sais pas, c'est un truc qui m'a vraiment pris, mais ce Tombouctou. Et en fait, j'étais très déçu parce que c'était assez nul. Tombouctou, finalement, c'est un gros carrefour au milieu du désert. Enfin, un gros carrefour, c'est un carrefour poussiéreux au milieu du désert. Et il n'y a pas grand-chose. Mais bon, j'avais entre-temps lu Raymond Caillet, j'avais rêvé de Tombouctou. Enfin voilà, ça fait penser aux chimères de l'existence, mais c'est des chimères qui peuvent, comme quoi, avec des chimères, on peut avancer quand même loin.
Et clairement, c'est les utopies, ça nous mène, ça nous pousse, et même si on est déçu quand on arrive, c'est pas grave, le chemin il est fait, quoi.
Exactement.
Yes. Et donc, l'armée, tu commences par quoi?
Alors, moi, j'ai fait l'école d'infanterie, une académie militaire où on forme des gradés destinés à encadrer des unités d'infanterie. C'est le passage obligatoire pour l'accès aux unités d'élite, les unités parachutistes, les unités commando ou les unités de force spéciale. Donc moi, j'ai commencé par ça, école d'infanterie qui était basée à l'époque au milieu des Ardennes. Et donc, je vais faire mes écoles là, je vais faire mes armes là, et puis ça va bien se passer pour moi. Je vais vraiment tomber dans un truc qui, non seulement j'étais préparé psychologiquement, c'était vraiment ça que je voulais faire. Je le savais depuis 10 ans, depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Je savais que il y avait deux trucs que je voulais vraiment faire, c'était aller en Afrique et sauter en parachute. Je savais que je voulais faire ça, quoi. Et puis la bonne embrouille avec l'académie militaire, c'est que ça me permettait de quitter le foyer familial ou les familles d'accueil, tout ça, de me barrer, d'être indépendant et de gagner de la thune. parce que on recevait une solde en tant que cadet. Et donc ça me permettait de prendre le large, quoi. Et en plus, elle était loin. Elle était en internat, évidemment, et elle était loin. Donc, c'était parfait. Et donc, voilà, je vais à l'académie. J'ai fait major de promotion. Et puis après, les choses, elles se sont enchaînées. Je me suis retrouvé… cette année-là, il n'y avait pas de recrutement chez les… Il n'y avait pas de place ouverte ni chez les parachutistes, ni chez les commandos. Donc, j'étais faire mes armes dans une unité d'infanterie, dans une unité de reconnaissance. Et puis voilà, j'ai passé 3 ans là-bas. Et là, on m'a spécialisé dans les troupes de montagne. Donc, ça, c'est évidemment, on n'a pas de montagne en Belgique. Donc, ça s'est fait en France avec les chasseurs alpins barcelonnais. J'ai passé pas mal de temps là-bas en formation et puis en entraînement aussi avec eux. Et ça, j'ai commencé avec ça. Et puis, j'ai embrayé avec les unités commando. J'ai réussi le parcours de sélection et puis j'ai intégré le centre d'entraînement commando pour les cadres. Et puis, j'ai servi dans une unité de commando. Et là, les premières missions ont commencé.
Yes. Donc, tu as été dans l'armée, en gros, depuis. Tu es resté combien de temps, hein, au total, si.
Alors, je suis resté jusqu'en 2000, donc j'ai passé 12 ans, 12 ans dans l'institution militaire.
Yes. Tu étais bon en sport déjà à l'époque?
Ouais, j'étais pas mal parce que voilà, j'avais une silhouette adaptée au sport. J'étais assez fin donc en tout cas pour les sports militaires, j'étais assez bon. L'armée a ses sports de prédilection, mais donc pour cavaler et pour faire les pistes d'obstacles, j'étais assez bon. Et puis je
Yes.
m'étais bien entraîné parce que j'avais vraiment envie de réussir les examens de sélection. Donc je suis entré en étant déjà avec un niveau correct de sport. Et puis, gosse, j'aimais pas trop les sports collectifs. Donc, c'est plutôt pas mal pour l'armée, parce que c'est souvent des sports, voilà, la course, par exemple. Et donc, ouais, j'étais assez bon.
Yes. Et puis je pense que t'es pas arrivé comme certains. Un peu en mode, qui était un peu en mode fils à papa, habitué au luxe et à la douceur, et je pense que tu es peut-être arrivé avec une longueur d'avance aussi en termes de mental et d'habituation à l'inconfort psychique.
Disons que pour moi, c'était plus un confort qu'un inconfort de me
Ouais.
retrouver à l'académie militaire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était assez rigoureux. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin parce que là, contrairement à ce que j'avais vécu par avant avec les différents endroits d'accueil où j'avais vécu gosse, c'est que si tu fais les choses qu'on attend de toi, en général, ça te le rend plutôt bien, ça se passe bien. Il
Ouais, c'est
suffit
cohérent, quoi.
qu'on attende de toi. Et dès que tu as compris ce qui est attendu de toi, ben, tu le fais et ça se passe très bien. Et pour moi, c'était rassurant parce que jusque-là, ça ne s'était pas passé comme ça, quoi. Quoi que je fasse, c'était problématique. Et là, ben non, si je faisais ce qu'on me demandait, ce n'était pas un problème. Et donc, ça a été assez facile pour moi.
Yes. C'était cohérent et du coup prévisible et du coup ça c'était OK, c'est tu étais opérationnel direct, quoi.
Exact.
Yes. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu tes expériences à l'armée, en opération, des trucs qui t'ont marqué et qui peut-être ont fait en sorte que tu structures tes valeurs et ton engagement aujourd'hui, tu vois?
Ah ouais, je vais essayer de... Ok, j'ai du temps ou on fait comment?
As tout le temps que tu veux, c'est vraiment libre, il n'y a aucune limite.
Ouais, c'est super. Écoute, la première mission que je fais, c'est mission Somalie. Donc, quand on part en Somalie, tout le monde a vu la chute du Faucon Noir. Hein, on sait dans quel état est le pays. C'est un pays qui est en proie à la guerre civile, qui a plus aucune institution. Et pour moi, c'est une vraie révélation, en fait, parce que jusque-là, du fait de mon histoire personnelle, j'ai jamais voyagé. Alors, quand j'étais dans les troupes d'infanterie, j'ai un peu voyagé dans le cadre de l'armée, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en France, j'y avais jamais été, j'étais en Allemagne où je participe à des exercices, mais quand je pars pour ma première mission, en réalité, c'est la première fois que je quitte le monde occidental et que je comprend, ou en tout cas que je prends en pleine face, qu'en réalité, ce n'est pas comme chez nous partout. Et que, donc moi, quand je suis à l'académie militaire, on est à la fin vraiment de la guerre froide, puisque moi, j'entre à l'académie militaire en 88. Donc, toutes les doctrines et toute l'atmosphère est toujours dans cette atmosphère, dans cette idée de guerre avec les Russes. Donc, en fait, tout ce dont on parle au niveau géopolitique concerne l'Est. À l'époque, il n'y a pas, en tout cas de notre point de vue là en Belgique, on a abandonné les colonies, on n'est plus impliqué en Afrique, il n'y a pas de mission, il n'y a pas, quasiment pas eu de mission depuis la guerre de Corée. Donc en fait, on est concentré sur par la lorgnette sur le bloc de l'Est. Et donc tout ce que je savais du monde venait de ça, finalement, de ce que j'avais vu pendant mes études à l'académie, et donc concentré sur l'URSS, sur la Pologne, sur la Tchécoslovaquie, sur toutes ces choses. Puis le mur s'effondre, et là, tout doit se réinventer, la doctrine militaire aussi, et on recommence des opérations en dehors de ce contexte, de cette idée de guerre froide. Et la première qui se passe pour, en tout cas, marquante, il y en a deux. Il y a le conflit en ex-Yougoslavie, mais moi je ne serai pas impliqué là-dedans parce qu'il n'y aura pas de commandos qui seront dépêchés là-bas. Je suis plutôt déployé en Afrique et j'arrive en Somalie. Et ce pays, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a plus d'institutions qui fonctionnent, il n'y a plus rien. Et c'est la première fois que je prends conscience que des endroits du monde peuvent fonctionner comme ça, enfin fonctionner dans le sens ça existe, parce qu'en fait ça fonctionne pas, ou si quand même, il y a des gens qui vivent, mais il n'y a plus aucune institution. Et pour moi c'est une première prise de conscience qu'en réalité ce que nous on vit c'est assez finalement privilégié, exceptionnel, isolé, et ça concerne assez peu de monde finalement, et je vais m'en rendre compte toujours plus et avec les autres missions, et puis surtout en ayant ouvert ce canal de réflexion, je vais commencer à m'intéresser au monde, au grand monde. Et là-bas en Somalie, il va y avoir une rencontre marquante, notamment. Il va y avoir, c'est une mission, ça reste une mission compliquée puisque c'est une mission de désarmement, c'est une mission de pacification d'un pays où règne la guerre civile depuis plusieurs années, avec des bandes rivales qui sont très armées et qui sont très déterminées. Donc, c'est une mission qui est compliquée. À l'époque, j'ai 22 ans et pour diverses raisons, je me retrouve à commander une trentaine d'hommes. Donc, c'est une mission avec beaucoup de responsabilités dans un terrain compliqué et dans un contexte qu'il est tout autant. Et bon. On va faire notre job, la mission va durer plusieurs mois. Il y a une rencontre qui va vraiment marquer, elle va être déterminante plus tard dans ma vie et puis dans mes choix professionnels. C'est que lors d'une mission qui se passe dans le sud du pays, très isolée, près de la frontière tanzanienne, il y a une action qui se passe avec échange de coups de feu et une action armée, une action violente. Et le dispositif militaire s'organise, l'action se termine, on fait ce qu'on a à faire. Et puis là, au milieu de tout ce chaos, je vois arriver un 4x4 de Médecins sans frontières avec trois jeunes personnes dedans. Il y avait deux jeunes femmes et un jeune homme, mais ils devaient être à peine plus âgés que moi. Ils devaient 25 ans peut-être, et ils arrivent habillés en civil avec juste une chasuble Médecins sans frontières, la fleur au fusil avec leur sac et leur matériel. Et je les vois débarquer là-bas et je me dis, mais qu'est-ce que vous venez branler ici, quoi? Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Donc moi, je suis responsable à ce moment-là de ma portion de dispositif. J'ai mis mes hommes en place et on est dans quelque chose de, à mon sens, sérieux. Et là, il y a ces gens habillés en rouge qui débarquent avec leur sac. Et il y a une des jeunes femmes qui me dit, c'est une Suissesse, avec le plus simplement du monde, ben, on vient soigner les blessés. Et à ce moment-là, toutes les certitudes du gradé commando que j'étais à ce moment s'effondrent un peu, parce que pour moi, il n'y avait que des gens comme nous là-bas. Il y a des gens armés, entraînés. Et non, il y a des gens qui viennent avec leur connaissance, leur principe, risquer leur peau pour venir soigner des gens qu'ils ne connaissent absolument pas au bout du monde. Et ça, pour moi, c'est une vraie révélation. Je te jure, c'est un truc, vraiment. Et je les regarde et je ne sais même pas comment les intégrer dans ce que je suis en train de faire. Et je leur dis, mais qu'est-ce que je dois faire de vous? Et ils me disent, mais non, vous n'avez rien à faire de nous. On s'occupe de nous. Et les voilà qui remontent dans leur véhicule et qui se dirigent vers le village où avait eu l'action pour faire leur job à eux. Et je me suis dit à ce moment-là, et voyant partir, c'est incroyable ce que font ces personnes. Alors, ça n'a rien à voir avec MSF, etc. Ça a à voir avec les individus que j'ai croisés là. Ces gens, ils vont là, ils vont risquer leur peau, ils n'ont pas de flingue, ils n'ont rien du tout. Ils sont trois paumés comme ça. Et je me suis dit, un jour, je ferai ce qu'ils sont en train de faire là, parce que pour moi, le vrai engagement, ça, je pense que ça ressemble à ça. C'est quelque chose qui va après me prendre beaucoup de temps pour intellectualiser. C'est le fait de finalement croire tellement en l'humain que tu y vas en étant confiant que ce que tu fais est tellement ce qu'il y a à faire, que peu importe où tu le feras, ça va bien se passer. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, ça, c'est une anecdote.
C'est génial.
Ouais, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué sur cette première mission. Après, bon, la mission, elle va se poursuivre, les actions, elles vont se poursuivre aussi. On va faire ce qu'on a à faire. C'est un moment aussi où c'est aussi un moment déterminant, cette mission, parce que pendant, il se passe des choses qui sont pas un secret non plus, donc on peut en parler de dérapage de certains militaires qui sont sur place. Et ça, pour moi aussi, c'est une grande découverte et qui va vachement influencer la suite de ma vie. C'est qu'il y a des trucs qui se passent, des exactions avec des gars de chez nous, avec des soldats de notre armée, alors qui ne concernait pas mon unité, mais qui concernait notre armée, et qui, pour moi, ça va être aussi une révélation sur certains aspects de la nature humaine et de ce que peuvent être les gens quand on leur donne un peu de pouvoir, qu'on leur donne un flingue et un peu de pouvoir dans un pays où ils sont censés représenter le pouvoir. Et après, voilà, ça, c'est des choses dans lesquelles je vais assez souvent puiser quand je suis amené, des fois, dans mes boulots d'écriture ou sur les magazines avec lesquels je bosse, où on réfléchit autour de la question de l'autorité, du pouvoir, de comprendre qu'au final, c'est Volman qui dit ça, l'auteur américain, qui dit donne un peu de pouvoir à quelqu'un et il va très vite se transformer en un nazi.
En tout cas, ça révèle, hein, c'est clair.
Voilà, c'est ça. La question du pouvoir, et ça va. Je sais que c'est des prises de conscience qui sont fragmentaires, qui vont après se multiplier, et particulièrement l'année suivante au Rwanda, et qui vont beaucoup m'interroger et qui vont m'amener aussi à faire certaines des choses que je fais aujourd'hui.
C'est un truc qui m'a aussi marqué, et pareil pour la Somalie, parce que les Canadiens aussi ont. D'un régiment que je portais en haute estime et dans lequel j'avais envie de rentrer à terme, parce que moi, à l'époque, j'avais 16 ans ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait des trucs vraiment pas clean pour garder leur base sur laquelle il y avait des vols, etc. Pareil, des exactions et des trucs atroces qui ont mené d'ailleurs à la dissolution du régiment en question. Et je me rappelle que ça m'a vraiment marqué, que ça m'a mis une claque, et ça m'a souvent, c'est souvent revenu sous forme de attention, sois humble, reste toujours hyper vigilant par rapport à ce que tu fais, ce que tu penses et comment tu te positionnes, parce que ça peut glisser très très vite. Et même les meilleurs peuvent faire des conneries irréversibles. Et c'est ça a été une claque pour moi aussi, ce truc. Donc voilà. Enfin, j'arrête la parenthèse, mais je pense que c'est hyper important d'avoir ce genre d'expérience-là et de voir en face la nature humaine un peu, y compris pour nous-mêmes, tu vois, pour pas se croire au-dessus du lot et voir que même les meilleurs peuvent faire des conneries, ça remet tout le monde à sa place, je pense.
Oui, tout à fait, parce il y a cette part d'ombre là qu'il y a chez tous les individus et elle est mais chez nous, c'est comme dans cette parabole-là, et chacun choisit de nourrir la moitié de, soit d'ombre, soit de lumière qu'il y a en soi. Mais moi, je le découvre à ce moment-là, quoi. Je pensais, alors que c'est clair que par rapport à mon enfance, où je m'étais jamais interrogé sur ces questions-là par rapport à ce que moi j'avais vécu, mon rapport avec les adultes étant enfant, où ça m'avait toujours semblé normal. De subir ça, je me l'étais jamais, mais j'avais jamais fait le prolongement avec qu'en réalité c'était déjà pas normal d'être comme ça avec un enfant, mais qu'ensuite de comprendre que cette part sombre là, elle est chez tout le monde, et puis il y en a qui arrivent à juguler ça de manière efficace, et puis il y en a d'autres qui arrive moins, et puis il y a aussi la notion je vais le comprendre de manière assez violente l'année d'après à Kigali au Rwanda, c'est les effets de masse, les effets de foule, et ça c'est très intéressant aussi, et c'est des choses c'est des notions qui aujourd'hui refont sans cesse écho en moi quand je peux voir là il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine et tout ce flux d'images qui peut nous arriver et où on a l'impression d'une éternelle répétition finalement des actes qu'on a toujours envie de croire disparus, mais en réalité ils sont là dans chacun d'entre nous. Et je sais que quand on va quitter, nous on va être relevé par un bataillon qui est un bataillon, et là je fais le lien avec ce que tu disais avec le bataillon canadien dont tu parlais, on va avoir le même genre d'histoire en Belgique, et je sais que ça va me remettre un deuxième coup, parce que le bataillon a été dissous il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un bataillon de parachutistes. Des mecs là-bas vont se retrouver à faire griller des gosses au-dessus d'un feu, ils vont en jeter dans la rivière avec les alligators et toutes ces choses, avec les crocos là-bas plutôt, et c'est toutes des choses qui, quand elles vont arriver, jamais elles vont être. Je vais jamais pouvoir les accepter, quoi. C'est ce qui va faire une derrière l'autre qu'à un moment je vais quitter l'armée, parce qu'à un moment j'y trouve plus de sens, quoi. Et je viens sur ces événements-là parce que tu parles aussi de comment ils avaient trouver une solution pour sécuriser leurs installations. Il y a une histoire, en fait, ça ce type de situation, c'est vraiment la base de mon premier roman, quoi, où il y a un moment, il faut que ça sorte d'une manière, je ne sais pas comment le sortir, donc j'écrirai un roman parce que à ce moment-là, c'est un bond dans le temps, parce que je commence à écrire assez tard, parce que je me dis, un jour, je vais devoir expliquer à mon fils, puisque quand j'écris mon premier roman, la maman de mon fils est enceinte, donc je me dis, à un moment, il va me poser des questions, il va me demander ce que j'ai fait quand j'étais soldat, pourquoi j'ai plus été soldat, et puis est-ce que j'ai déjà tué des gens, est-ce que j'avais une arme, il va me poser toutes ces questions que les gosses posent aux adultes, et il va falloir que je lui trouve des réponses, quoi, et pas celles que j'utilise jusqu'à présent quand un gosse que je connais à peine me le demande, ou je le remballe et je lui dis ouais, mais si tu regardes pas, va jouer, quoi. Là, avec mon, ça sera pas possible. Donc, et le premier truc que j'ai besoin de sortir quand même, c'est cette histoire de comment ça se passe en Somalie, comment les faces cachées, les faces sombres de l'être humain, et que moi je découvre à ce moment-là. Mais
tu peux nous dire le titre de ce roman, parce que je suis pas sûr duquel tu parles.
Donc là, c'est Karma Africa.
Karma Africa, ouais.
Premier roman, et donc en fait, Karma Africa, c'est une histoire. C'est une histoire qui se passe à deux époques séparées d'une quinzaine d'années d'intervalle. Et c'est un chapitre en alternance. Il y a à chaque fois un chapitre. Le premier chapitre se passe en 93 et le deuxième en 2003. Et puis le troisième retourne en 93 et puis en 2003 et ainsi de suite. Et en fait, les deux histoires évoluent en parallèle. Et le titre est explicite, c'est clairement de ça que ça parle. C'est comment les choses, elles peuvent nous revenir, comment les actes posés peuvent nous revenir à un moment où on les attend le moins, sous une forme ou sous une autre, mais ils finissent toujours par revenir. Ça peut être juste un petit mal de ventre la nuit ou un cauchemar, ou ça peut être plus sérieux que ça. Et puis voilà. Et donc ça traite de ça, ça traite de cette première mission finalement. En Somalie. Mais la suite, oui, on va quand même avancer. Le gros morceau, ça va être l'année d'après quand je vais être envoyé au Rwanda en 94. Donc, tout le monde le sait, c'est l'année de l'effroyable où, sans rentrer dans la polémique, il serait plus correct de parler des effroyables génocides, hein, parce que tout le monde a morflé. Clairement, les Tutsis, mais bon, après, ça ne s'est pas arrêté là. Mais moi, j'ai à la fois la chance, en tant qu'acteur du monde, d'être là-bas avant les événements, pendant, et puis j'y retournerai après également. Donc voilà, ça donne quand même une vision privilégiée, mais bon, aussi la malchance parce que c'est quand même voilà, c'est quand même une période extrêmement horrible. C'est même pas un bon mot.
Je crois qu'il n'y a peut-être pas de mots
Non.
suffisamment grands pour décrire ce qui s'est passé au Rwanda cette année-là.
Effectivement, effectivement. Bon, quand moi j'arrive là-bas, le pays, il est bien ce pays. Déjà, le Rwanda, c'est super beau. Et contrairement à la Somalie où j'étais l'année d'avant, les institutions fonctionnent. Il y a un gouvernement, il y a une poste, il y a des écoles, il y a une police, il y a des services d'État, il y a des hôpitaux, tout fonctionne. Et donc là, je vais vraiment pour une mission de peacekeeping, quoi. Les flingues sont même pas chargées, les chargeurs sont dans la poche. Et quand on fait des missions ou d'escorte ou des missions on va dire d'observation, on est avec la police ou avec la gendarmerie de manière conjointe, on les suit, on n'est même pas en première ligne, quoi. Donc c'est vraiment une mission. Le soir, tu joues au foot avec les gosses et tu bois un coca ou une bière, c'était pas de service quelque part dans la ville. Et on est là-dedans. Moi, je suis là-dedans pendant un bon mois. Pendant un bon mois, j'avais été faire les reconnaissances pour le déploiement de mon unité, donc 2 semaines quasiment seul avec quelques éléments sur place, et puis 2 semaines avec mes gars, mais dans l'ambiance que je viens de décrire. Et puis le 6 avril 1994, à 22h22, il y a une boule de feu dans le ciel, et là il y a le Falcon 50 d'Habyarimana qui vient de se faire plomber par deux missiles solaires, et là il s'écrase et c'est parti. Et c'est juste phénoménal la manière dont les choses, elles s'enchaînent, quoi. Donc l'avion crash à 20h22. Il s'avère qu'à ce moment-là, moi je suis patrouille de sortie, donc je suis avec mon 4x4 et mon tireur d'élite, mon mitrailleur. C'est moi qui conduis le véhicule, et on est en patrouille comme on l'était tous les jours qui précédaient. Et puis là, les choses vont très rapidement se dégrader. Dès 20h45, les rumeurs les plus folles commencent à courir, des barricades commencent à se monter un peu partout, il commence à y avoir des cris partout, et ça va être un point que moi je vais plus pouvoir réintégrer notre compound, notre camp. Je vais être seul dans cette ville qui commence à se fermer de partout. Et puis là, il y a une rumeur qui commence à courir que c'est les militaires belges qui ont abattu l'avion. Donc là, ça commence à devenir vraiment très compliqué pour nous. Et puis là, les le massacre des premiers Tutsis commence, où des milices à peine armées de machettes, de gourdins, etc., rentrent dans les maisons et commencent à vider les premiers habitants et les exécutent les uns après les autres. Et à ce moment-là, nous, où c'est vachement difficile, c'est qu'on comprend que quelque chose, évidemment, de très grave est en train de se passer, mais on est complètement coupé du commandement qui, lui-même, est... Il ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer, quoi. Et on dépend d'un commandement ONU qui est à New York, qui va prendre des plombes et des plombes pour réaliser ce qui se passe. Et donc là, on est complètement roue libre avec un chargeur de 30 coups dans la poche. Bon, là, il n'est plus dans la poche, il est sur l'arme, mais on a très peu de munitions. L'armée rwandaise commence à sortir des casernes et à prendre position et prendre part également au conflit. Et puis les visions d'horreur vont, voilà, elles vont s'enchaîner. L'idée ici, c'est pas spécialement de les décrire, mais juste pour donner une idée finalement de l'ampleur de la chose. Il y a un moment où on va prendre une position d'observation quelque part pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut se mettre dans la peau du moment. À ce moment-là, une heure avant, c'est un pays où on s'arrête pour boire un coca, on a nos informateurs et tout se passe très, très bien. Là, on est dans un pays où ça tire de partout, l'armée sort des casernes, il y a un avion qui a été abattu, on apprend par la population que c'était le président qui était dedans, on voit des gens qui commencent à s'étriper les uns les autres, mais on ne comprend absolument pas qui et pourquoi ça se passe et de qui on est encore l'ami ou l'allié et de qui on est l'ennemi. Donc c'est très compliqué. Donc on se met dans un poste d'observation puisqu'il y a tellement de barrages qu'on ne peut pas retourner dans notre compound, comme je l'ai dit. Je me souviens de deux scènes sur ce point-là. Il y a mon tireur d'élite et en observation avec la lunette de nuit, et il assiste dans une ruelle là un peu plus loin de où on est, à 200-300 mètres de où on est, au viol d'une femme dans une ruelle par trois gars, et il y a un gars qui est dessus et il me décrit ce qu'il est en train de voir dans l'observation. Moi, je suis avec le bigot, avec la radio, et j'essaie d'avoir des instructions parce qu'on est dans un cadre de règles d'engagement ultra strictes à ce moment-là. Donc, et l'ultra strict, c'est... excepté pour ta légitime défense, tu n'as pas droit d'utiliser les armes. Mais là, on est dans un cas de figure où on n'en a jamais parlé sur les briefs de pré-déploiement, etc. Que faire si un homme viole une femme et que la police n'intervient pas? C'est un cas, et tu ne sais pas, et tu es là, et tu es confronté juste à ce moment-là, ton jugement à la fois de soldats, donc un soldat, ça applique des consignes et c'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'on applique des consignes. Et à côté de ça, ce truc d'humain, et on est typiquement, là, si on veut parler pour les survivalistes, on est typiquement dans le plan de contingence, on est dans le plan C, quoi. On n'est pas dans le A où on sait ce qu'on a à faire, qu'on est dans le A, c'est clair. On n'est pas dans le B, c'est-à-dire quand le A, il faut mener le plan A, mais qu'on n'a pas les moyens de mener le plan A comme c'était prévu, où on adapte, où on improvise. Nous, on est dans un C, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais,
c'est complètement hors cadre, quoi.
Exactement, et on n'a pas les moyens de remédier, et on n'a pas les instructions, et on est complètement paumé. Et donc la question à ce moment-là, c'est et puis toi, t'es avec les gens qui n'arrêtent pas de te dire attendez, on te renvoie, hein, wait five, on attend, machin et tout. Et puis l'autre qui continue de te décrire ce qui est en train de se passer, le deuxième arrive, il y en a un qui sort, on fait quoi, hein? Tu sais que si tu donnes un ordre d'engagement, t'es hors cadre, t'es en tout cas certainement hors la loi, clairement, parce que ça ne fait pas partie de tes attributions. Et si tu ne le fais pas, tu es hors humanité. Donc, on est où? On fait quoi? On choisit quoi?
Et là, il y a complètement schizophrène au final, où tu es coupé en deux et c'est irréconciliable, quoi.
Exactement. Et tu sais que de toute façon, je me souviens à ce moment-là déjà que ce que je suis en train de vivre là va fondamentalement changer qui je suis, quoi. Parce que je choisisse gauche ou droite, ça changera fondamentalement qui je suis. Et c'est terrible, c'est terrible. Et puis après cet événement, bon, j'imagine que ceux qui écouteront se demanderont quand même quelle a été la décision qui a été prise sur ce genre de situation. Je pense qu'il faut. Alors, j'ai pas de leçon ou de manière toute faite, de réponse toute faite à ça. Mais là, sur ce moment-là, par rapport à ce qu'on voyait, ce qu'on assistait, c'était impossible de respecter les consignes. C'était impossible.
Ah ouais,
Et puis.
de suivre des consignes inhumaines ou immorales, à mon avis, c'est aussi une responsabilité qu'on porte, quoi.
Exactement, exactement. Je savais que si ce qu'il y avait à faire, je le savais, j'avais pas besoin, sans ce qu'il fallait faire théoriquement, je le savais, ça, en l'absence d'instruction, voilà, il se passe rien. Mais je savais également que d'un point de vue humain, il n'y avait pas, c'était pas possible de ne pas. Mais à peine une heure plus tard, toujours sur ce point d'observation, je vais voir peut-être l'image qui va être pour moi. Alors, il y en aura des bien plus terribles après, et pourtant, c'est celle-là qui va rester jusqu'à ce que j'écrive, je crois, ce deuxième livre et peut-être les 2 années qui suivront, le temps de le digérer. Donc là, je parle du roman, mais ce qui persiste en moi est ce fragment d'humanité. On va être là sur ce haut, et puis à un moment, on va se faire engager par l'armée rwandaise, et on va devoir vraiment se mettre à couvert dans une dépression du terrain. Parce qu'il nous engage avec un canon de 20 mm. Et le seul moyen, c'est quitter cette piste et on se met dans une dépression. Là, on est hors de la ligne de mire et on est bien fixé là-bas. Là, on ne sait pas où bouger parce que ça tape. Ils savent qu'on est là et ça tape. Et à un moment, les tirs s'interrompent et on entend un bruit de véhicules au loin. Et un véhicule qui peine, on sent que c'est un véhicule qui est. Et il y avait une côte pour monter vers ce point de vue où on était, donc la piste est vachement en côte. Et quelques secondes passent, et donc on comprend, on arrive à identifier le son, que c'est un camion en fait qui est en train de monter, et qui peine, on sent qu'il est soit très vieux, soit en charge, soit les deux. Et c'est un assez vieux camion, porte. Container comme ça, un container de 15 mètres cubes. Donc il faut voir ce que c'est. Un container de 15 mètres cubes, c'est quand même c'est un beau container, un assez beau volume. Et le camion, on voit qu'il est, qu'il, ça déborde. Donc là, il est aux alentours de 1 h 30 de la nuit. Donc c'est la nuit claire, mais nuit quand même. Et on voit quand il arrive. Donc on est vraiment dans la dépression. Il peut pas nous voir. Et on voit que le camion est chargé de quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier, on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Et au moment où il arrive plus ou moins à notre hauteur, nous on est une dizaine de mètres en contrebas, il tombe dans un gros nid de poule et vraiment le camion tape, les amortisseurs sont en fin de vie et au moment où il sort du nid de poule, il perd une partie de son chargement, quoi. Quand il perd son chargement, et en fait il perd 3 cadavres. Et dans ces 3 cadavres, il y a une femme enceinte qui a été éventrée avec son fœtus qui pend là, qui va rester sur le camion, qui va être arraché au moment où elle tombe. Et elle tombe là sur la piste. On est à quelques mètres. Je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose vraiment qui se fracture en moi de réaliser que il y a des gens qui peuvent faire ça, quoi. Waouh, il y a des gens qui peuvent faire ça. Et là, on va rester tous les trois à regarder ça, et ça va, voilà, ça va durer. Et puis ça va durer. Puis il va falloir, il va, à un moment, il va falloir faire quelque chose, il va falloir bouger, il va falloir dire quelque chose. Et pourtant, il n'y avait juste rien à dire. Et Et puis chacun va prendre ça en lui et va en faire quelque chose comme il le peut. Et puis voilà. Et puis bah, les choses, elles vont s'accélérer. Je vais arrêter de m'étendre là-dessus. Les choses, les événements là durant 94, ils vont s'accélérer. Il faut se rendre compte qu'en à peine quelques jours, 100 000 personnes vont mourir. 100 000 personnes, c'est beaucoup. D'autant que ça se fait avec juste des machettes et des gourdins. Voilà. Et c'était tout cet événement et cette mission qui va durer, qui va se finir en un fiasco complet, puisque donc là, on va changer de mandat, on va reprendre notre vie de commando pour pouvoir évacuer notamment les ressortissants étrangers qui sont sur place. On va commencer à bosser avec l'armée française qui nous rejoint. Donc là, ça va se transformer en une opération plutôt armée. Et à la fin de l'évacuation des ressortissants, on va recevoir l'ordre de remballer tout et de rentrer chez nous, parce qu'entre-temps, on a perdu 10 potes. C'est insupportable pour un gouvernement occidental, ou en tout cas pour le gouvernement belge de l'époque, de devoir gérer cette perte-là, la plus importante depuis très très longtemps. Et donc, on va tous les abandonner là-bas. On va tous. Alors que pour la plupart d'entre nous, c'est une décision qui est incompréhensible. On a des armes, on est entraîné, on est sur place. Mais on nous explique que c'est plus compliqué que ça. Et puis voilà. Et pour moi, c'est une vraie fracture. Cette mission-là, c'est une vraie fracture. Je veux dire, waouh! Si vraiment, quand on est sur place et qu'on peut faire quelque chose pour les gens et qu'on ne fait rien, à quoi ça sert?
Ah ouais, puis c'est l'inverse de la décision que tu as prise du sommet de ta colline, ton point d'observation juste avant. On choisit la règle et la norme et on fait rien alors qu'on peut, quoi.
Exactement. Exactement. Et donc voilà, ça va. Ça, c'est des choses que bah, je et on, hein, beaucoup d'entre nous à l'époque, vont porter, comme je le disais tout à l'heure, de manière différente. De manière différente, c'est clair. Ensuite, bah, cette mission, elle va se terminer. Hein, plusieurs semaines plus tard, elle va se terminer. Puis je vais en mener d'autres qui vont être plus conventionnels. Évacuation de ressortissants, sécurisation, voilà, de la protection de personnes, ce genre de choses. Et puis à un moment, voilà, je vais rejoindre les unités de force spéciale, donc ce qui s'appelait avant en France les commandos de recherche d'action en profondeur. Et là, je vais avoir dans cette période-là un gros accident qui va mettre fin à ma carrière militaire. Et donc, je vais quitter l'armée.
Yes. Et j'imagine que ces expériences et la dissonance que ça crée entre tes valeurs et l'institution, au final, te structure, tu vois, te change à jamais et te donne envie de t'engager peut-être différemment par la suite, non?
Bah, je crois que c'est à ce moment-là que je commence. Ce qui est le travail d'une vie, hein, c'est de réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on veut, à ce en quoi on croit, à ce qu'on a envie de défendre. Et puis, surtout à ce moment-là, moi, c'est le début de mes réflexions profondes sur ce qui nous gouverne, voilà, sur ce qui décide pour nous, ce qui dicte ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Et après, je vais aller loin dans la réflexion et dans la recherche d'informations sur ça, sur la gouvernance des masses, et que ce genre de thématiques vont vraiment devenir chez moi une curiosité sans fin.
Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est une réflexion qu'on se faisait avec Aurélie, ma chérie, juste il y a quelques jours, où on évaluait un peu le risque de guerre nucléaire, etc., ou de conflit qui s'élargit au-delà de l'Ukraine et tout ça. Et on voyait le sort des Ukrainiens qui sont en train de ramasser bien méchamment à des endroits. On se disait, mais c'est complètement aberrant que un mec puisse décider de faire basculer la vie de millions de personnes comme ça, juste parce qu'il a envie, quoi. Juste parce qu'il a une stratégie, il a décidé, ou alors on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Et le pouvoir qu'il a de foutre la merde, en fait, pour des millions de personnes, et potentiellement pour la moitié de la planète, moi, ça dépasse mon entendement, tu vois. J'arrive pas à, comment dire en anglais, à wrap my head around it, tu vois, j'arrive pas à faire le tour, quoi.
Ah, c'est
Bref.
juste, t'as raison, c'est juste hallucinant de se dire, voilà, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais que ces gars décident de choses qui vont vraiment basculer en une minute, en une heure, peu importe, mais vont basculer
Très vite.
le destin de milliers, de millions de personnes de manière irréversible, parce que là, peu importe le parti qu'on prend, et là ici c'est pas la question. Quand tu regardes l'Ukraine, c'est une vraie putain de guerre là. Pour ceux qui pensent encore que c'est quelques échauffourées de loin, non, mais c'est une guerre où on se détruit, on détruit les gens, on détruit les endroits où ils vivent, on les rince, et puis il y a des milliers de morts. On n'a pas les chiffres évidemment, on les a pas, on n'est pas en train de parler de quelque chose, on est en train de parler de quelque chose qui est inentendable, je crois, même pour nous occidentaux. C'est les générations actuelles là, elles sont quand même, pour la plupart des personnes, dans la paix. On a passé une grande partie de notre vie dans la paix. C'est inimaginable ce qui est en train de se passer là, et ça se passe sur la décision de gens, et qui, eux, la plupart du temps, ne sont absolument ni concernés par les privations, par l'exposition et les conséquences.
Ils sont pas en danger, c'est clair.
Ah non, ça c'est sûr.
Et on voit des chiffres, tu vois. On voit passer des chiffres, et quand on n'a pas vu, quand on n'a pas vécu, on voit des chiffres, tu vois. Ça, c'est quasiment comme un bilan comptable, et c'est difficile pour plein de gens de se représenter ce que ça veut dire concrètement en termes de traumatisme irréversible, de vie brisée, de famille brisée, de choses qui vont mettre des générations à se réparer, en fait. Vraiment, quoi.
Exactement. Et c'est toujours ces mêmes images de personnes âgées ou de gosses complètement hagards qu'on va récupérer dans des décombres. Et tu te dis toujours, enfin voilà, moi, chaque fois que j'ai assisté ça, que ce soit en réel, et donc fatalement l'avoir vu en réel, et puis le voir en image, puisqu'ici c'est la TikTok War. Donc on a des images tout le temps qui sont juste incroyables. C'est la première, ce conflit a au moins aussi cette particularité, c'est d'être le premier à être conflit filmé en permanence par les téléphones. Donc on a accès à toutes sortes de choses. C'est toutes des images qui moi, me disent quelque chose, qui me renvoient vers notamment Vukovar en Croatie, qui avait été pilonné pendant plus de 93 jours. J'en parle assez longuement là, dans mon livre ici, quand je retourne sur les lieux 20 ans après, dans vers Sarajevo. Tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai interviewés pour le livre, que j'ai eu la chance de rencontrer ou de passer du temps, qui ont été montrés 20 ans après l'état dans lequel était leur ville, l'endroit où ils ont travaillé, l'endroit où ils ont grandi. Mais c'est juste, tu te dis, mais c'est cette redite, cette sempiternelle redite, elle est. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai l'impression, même là, quand je suis en train de parler de ça avec toi, d'être en train de faire du vent, parce que c'est tellement des poncifs de dire ça.
Et en même temps, il faut le dire, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Non, c'est un côté qui me désespère.
Ouais, je comprends. Et cette frustration-là, elle nous pousse en avant un peu, tu vois. Elle nous pousse à bouger pour faire au moins ce qu'on peut faire dans notre petite sphère d'influence, quoi.
Évidemment, parce que de toute façon, là, si je reviens sur Russie-Ukraine, peu importe que tu sois russe, que tu sois ukrainien, tout le monde morfle. En tout
Ah,
cas,
c'est clair.
tous ceux qui sont sur le terrain, ils morflent.
Ouais, ils morflent, et russophone ou ukrainophone ou peu importe, tout le monde ramasse, et ils font pas trop la distinction, et Et les chaînes de secours derrière, à la frontière polonaise, etc., font pas la différence non plus, hein. Les réfugiés, peu importe quel côté ils viennent, ils sont accueillis et pris en charge de la même manière. Il n'y a pas de distinction, hein. À ce niveau-là, en tout cas, il y a un peu une distinction. Par contre, apparemment, j'ai eu des... Tu vois, j'ai un pote qui revient de la frontière, là, qui allait amener des vivres et du matos et tout ça. Et il nous a fait un petit rétec que j'ai posté sur mon fil Facebook, tout à l'heure. Et il refoule quand même les Pakistanais, et tous les Africains, etc. Il les laisse pas entrer en Pologne, ils les remettent, ils leur font faire demi-tour. Donc c'est quand même à géométrie un peu variable, tout ça. Et... Bref.
Ouais, tout ça est quand même extrêmement violent et
Ouais.
avec plein de côtés détestables, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que au-delà, alors là, ça ramène vers nous, hein, mais c'est aussi quand même indispensable pour essayer d'avoir un petit temps d'avance, c'est que voilà, toute cette, on va dire, c'est la paix, tout simplement, la paix, même avec toutes les difficultés qu'elle peut avoir, et par moments, hein, je veux dire, la vie, je fais notamment l'allusion aux 2 ans qu'on vient de se passer avec le Covid, et particulièrement la gestion politique de ce Covid, ça reste quand même des moments privilégiés de l'histoire. Alors, je ne parle pas du Covid, je parle de ces moments de paix prolongés, c'est quand même globalement, je reparlais de ça avec l'historien, sur là, je rentre de l'Iowa, on a fait la route ensemble en rentrant d'Allemagne. Donc, on a été visiter quelques sites là-bas et on discutait de s'imaginer d'un gars qui est né en 1880 ou en 1870, quoi. Le gars, il
Ouais,
a
c'est clair.
connu toutes les 3 plus grandes guerres, une derrière l'autre, et c'est possible, je veux dire, et à plein de moments de l'histoire, ça a été possible, tu vois. Là, on vient quand même de passer une période c'est là où je veux en venir, ça reste une exception, la période qu'on vient de passer, et ça, il faut en être conscient, quoi. Alors, ça
C'est
fait
clair.
qu'on est dans une parano permanente, et après, bah, j'en parle avec toi parce que je sais que c'est la bonne personne pour en parler et c'est le bon endroit pour en parler. C'est que ces moments-là sont des moments d'exception et qui les considérer comme la normalité, ça revient à considérer comme moi du temps où j'étais encore à l'académie militaire que le monde entier vivait comme on vit en Belgique ou en France.
Ah, mais on est
Oui.
hyper privilégié, hein. On est
Exactement.
hyper privilégié et la paix, ça se mérite, c'est pas gratuit déjà. Ça demande des engagements et des conflits potentiellement pour la préserver, mais ça se construit aussi au quotidien et faut pas la saboter déjà, c'est la première chose à faire. Enfin, je
Exactement.
trouve. Ah. Et du coup, comment tu vois ton engagement aujourd'hui? Parce que je sais que tu es vachement engagé, déjà pour la formation au premier secours, mais tu es aussi investi pas mal pour la protection de la faune en Afrique, etc. Enfin, tu as plein de causes comme ça dans lesquelles tu t'investis. Tu veux nous en parler un peu?
Ouais, avec plaisir. Quand je rentre de Sarajevo en 2012, parce que j'avais été faire un assez long voyage là-bas pour à la fois écrire un livre et puis parce que c'est un conflit que je trouve passionnant d'un point de vue historique pour plein de raisons. La première, bah déjà, il se passe en Europe, il est juste là à côté de nous, il est contemporain, c'est une sorte de mélange d'Est et d'Ouest, c'est aux portes de l'Italie, il y a tout le côté. Je trouve que c'est le moment où on peut le mieux, en tout cas pour notre génération et sans être un historien, analyser aussi l'influence qu'a la géopolitique sur comment on façonne finalement notre perception des choses d'un point de vue géopolitique, comment les États, quand le on, c'est les États, comment les États, et moi, c'est avec ce conflit-là que j'en prends vraiment conscience. C'est de voir, et notamment l'épisode de la Serbie, du bombardement de la Serbie, et qui aujourd'hui nous revient en pleine tronche, un peu comme un boomerang. Poutine nous avait prévenu, bah, le boomerang, et voilà, il est revenu aujourd'hui, où on voit que bah, les méchants, bah, c'est aussi à géométrie variable, que bombarder les civils, bah, parfois ça se fait, on peut le faire, ça dépend qui le fait en fait, et quand on le fait, et pourquoi on le fait, mais sinon on peut le faire, des fois c'est bien, et donc il y a des bons méchants et des méchants gentils, et on voit que tout ça en fait est assez malléable, et je trouve en ça le conflit de l'ex-Yougoslavie assez passionnant. Et donc, mais ce que je, quand même, pendant, ça sera assez traumatisant les rencontres que je ferai là-bas, puisque bah, les gens qui ont vécu cette guerre ont été très très marqués. On en parlait juste avant, la guerre, c'est rien de dire que ça marque, mais ce qu'il y a, c'est que ça marque pour longtemps. Et un problème bon, je digresse, mais je reviens sur le sujet après, que je remarque, c'est qu'en réalité, il ne touche pas que la génération qui l'a subi, alors même si ça semble évident, mais il ne touche pas les autres générations de la même manière. Par exemple, moi, j'étais faire une mission à Sarajevo en 2015, une mission clinique. J'ai travaillé dans le service d'urgence, dans les ambulances qui faisaient l'équivalent du SAMU ici. Et il y avait vraiment, dans les générations qui avaient vécu le conflit, toute une série de pathologies liées à la toxicomanie, l'alcoolisme et l'état de stress post-traumatique avec toutes les dérives, l'utilisation de médocs, etc. Ça, c'était vraiment pour les cadres qui avaient vécu le conflit de face, que soient les femmes, à la fois au niveau des violences sexuelles, de la perte de leurs époux, de leurs fils, etc. Et les hommes, bah, d'avoir été au combat, et bon, certaines femmes aussi avaient été au combat, mais ça partager un peu de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment la génération qui avait connu le conflit. Par contre, la génération qui était juste en dessous, donc leurs enfants, leur manière de réagir à ce conflit, c'était de ne pas vouloir en entendre parler, de ne rêver qu'à une chose, c'était à l'après, donc à l'Europe, à la commodité, au modernisme, et ce genre de choses, la mode, voilà, ce à quoi on peut rêver quand on est jeune. Et donc, on a là deux manières complètement différentes de réagir, mais qui vont interagir ensemble. C'est-à-dire qu'en plus, la génération des plus jeunes, elle comprenait pas la génération au-dessus, qui elle ne comprend pas celle d'en-dessus, et on tombe dans un choc générationnel comme ça qui crée des nouveaux conflits, tous des conflits familiaux, sociologiques, de la violence intrafamiliale, etc., etc. Et moi, j'avais découvert les coulisses de la population sarajevienne comme ça. Donc là, on est en 2015, on est quand même 25 ans après le conflit. Et alors, il n'y a plus un seul coup de feu hein, qui est tiré dans la ville, à part hein, les homicides ou le droit commun, mais en réalité, la guerre, elle est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi été une prise de conscience pour moi, c'est que la guerre, non seulement il y a l'évidence, là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur nos images en Ukraine, mais il y a tout l'après. Et on part, comme tu le disais tout à l'heure, pour des générations. On va porter ça sur des générations. Toujours est-il que quand je reviens, donc là, c'est ce dont je parle là, le service d'urgence, c'était en 2015, mais en 2012, quand je reviens du voyage, je me dis, le conflit, donc j'avais beaucoup écrit, beaucoup lu, beaucoup interviewé autour de ce conflit. Ça me semblait évident que ce conflit pouvait se répéter et que on n'était pas à l'abri. Et notamment parce que moi je viens d'un pays où les conflits territoriaux bah, ils sont constants, ils sont connus. Hein, la Belgique elle est connue pour ça hein, entre les Flamands et les Wallons. Et alors il faut préciser que c'est un conflit politique, c'est toujours politique. Et que bah, les individus en eux-mêmes, bah, ils n'en ont pas grand-chose à foutre, mais une fois que c'est récupéré par la politique, bah, les choses, elles sont entretenues, montées. Et donc, je me dis, on est vraiment pas à l'abri de ça. Et ailleurs en Europe aussi, je pense maintenant, ici en France, quand bah, tout le monde d'une manière ou d'une autre, s'intéressent quand même à comment cohabitent les différentes populations ici en France, toujours plus, on va dire, toujours plus cosmopolite. C'est un nœud de problème. C'est souvent ce nœud de problème qui va être orchestré, utilisé politiquement et qui va à un moment créer un problème. Et moi, quand je prends conscience que ce problème il peut ressurvenir sous nos latitudes, dans nos contrées, je me dis qu'il faut absolument se préparer à ça. Il faut faire quelque chose et j'ai envie de lancer à ce moment-là une sorte de groupement de citoyens prévoyants, je les nomme comme ça à ce moment-là, ou de citoyens avertis. Et je me dis qu'il faut en fait tout ce que la démilitarisation, la fin du service militaire, tout ce que l'État ne nous enseigne plus, il faudrait qu'on puisse l'apprendre, nous, en tant que citoyens, par des organes citoyens. J'ai envie, à ce moment-là, je me souviens toujours de ce que je m'étais dit en croisant mes gens d'MSF en Somalie, que j'ai envie d'apprendre la médecine, mais au départ, c'est pour des raisons de préparation à la résilience. C'est de me dire, parce que c'est ce qui a manqué rapidement en Yougoslavie, des retours que j'ai avec cette expérience d'écriture et les gens rencontrés, c'est que rapidement, on est seul et qu'il va falloir se débrouiller. Donc, je vais retourner sur les bancs d'école, je vais faire tout ce que je peux pour en apprendre un maximum. Je me rends compte que je vais vite, au niveau francophone, atteindre les limites de ce qu'on nous permet d'apprendre, particulièrement au niveau médical, pour des raisons de protectionnisme, pour des raisons de corporation, etc. On va t'en apprendre le minimum. Et évidemment, n'importe qui a déjà suivi un cours à la Croix-Rouge se rend compte que ça va très bien marcher pour les petits problèmes domestiques jusqu'à ce qu'on appelle le 18 ou le 112, mais que ça ne va pas aller beaucoup plus loin, quoi. Et on ne va pas t'apprendre grand-chose. Même si c'est une base intéressante, si tu veux aller un peu plus loin, tu es vite limité dans le monde francophone. Et c'est moins le cas dans le monde anglophone. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, là où j'affectionne le système anglophone, c'est que si tu as vraiment envie de réussir quelque chose, c'est possible. Même si tu n'es pas dans les clous, même si tu n'as pas le parcours type, c'est possible. Il va falloir bosser, il va sûrement falloir raquer un maximum à un moment, tu vois, il va falloir faire de l'argent, parce que ça marche sur ça, mais c'est possible. Et donc, je vais reprendre des études de sciences paramédicales, je vais repasser au diplôme de sciences paramédicales avec une institution qui travaille avec une université australienne, et puis je vais aller le plus loin que je peux là-dedans. Mais au départ, ce qui me motive, c'est à la fois d'avoir croisé ces gens d'MSF en Somalie, toujours cette vision-là, qui est toujours là, et puis le conflit yougoslave et puis tous les conflits dans lesquels j'ai été, de me dire, mais en réalité, les premières minutes, les premières heures, voire des fois les premiers jours, voire les premières semaines, tu es tout seul. Et il va falloir, il va falloir faire avec ça. Il
faut se débrouiller.
Exactement.
Et je pense que les gens, comme tu disais, on a vécu 70 ans de paix aujourd'hui en Europe occidentale. Les gens ont peut-être un peu oublié comment ça pourrait être dans l'absolu. C'est quelque chose, je pense, qu'on a en commun, c'est cette préoccupation de préparer les gens à s'adapter, en tout cas, et à se débrouiller si jamais ça... Enfin, j'ai envie de dire, ça redevient normal avec des gros guillemets, c'est-à-dire qu'on perd cette bulle de protection et de confort et de luxe et de sécurité et qu'on se retrouve dans la vie du reste de la planète, en fait, quelque part.
Exactement. C'est vraiment quelque chose qui m'a motivé à travailler. J'ai travaillé vraiment dur au début et puis pas tout seul avec mon pote Patrice. On a vraiment travaillé dur à construire les formations que nous on aurait aimé recevoir quand on a commencé à chercher, quoi, de se dire mais bon, comment est-ce qu'on pourrait se préparer au mieux? Et ensuite, comment est-ce que maintenant qu'on a quelque chose qui nous satisfait, comment on peut l'instruire au mieux et au plus grand nombre. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est répandu. Et puis malheureusement, les événements nous ont donné raison, Bataclan, etc., toute cette période fort sombre. Et puis là, l'Ukraine, même chose. Entre-temps, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vrai que la cause des sans-voix, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi, les sans-voix, comme j'étais bûcheron et arboriste grimpeur à un moment dans ma vie assez longtemps, la flore en premier, et puis puisque ça, c'est vraiment les sans-voix, les arbres, et puis la faune. Tout ça est en train de mourir. Tout ça est en train de mourir dans le plus parfait silence, et c'est quelque chose avec lequel je suis pas en paix. Alors j'ai rencontré Sergio Lopez, le fondateur de Wildlife Angel. On a travaillé ensemble sur son livre, et puis après c'est tout naturellement, c'est une cause que j'avais envie de rejoindre depuis longtemps. Ça se mettait de la bonne manière parce que c'est pas non plus un milieu très simple et pas toujours très sain. Et puis là, ça se mettait de la bonne manière puisque ce qui m'était proposé, c'était de plutôt former ces guerriers qui risquent leur vie tous les jours pour défendre ce qu'il reste de faune, puisque là aujourd'hui, dans le plus parfait, on va dire, inintérêt de la plupart des gens, et c'est tout à fait normal, on est sur d'autres choses, la grande faune, elle se meurt. Là, très probablement que mes gosses ne connaîtront jamais les lions à l'état sauvage, ni les éléphants, ils auront tous disparu d'ici une dizaine d'années. Alors voilà, c'est un combat. Alors c'est un combat désespéré. C'est vraiment la colline qu'on va jamais réussir à prendre. Ça, je pense qu'à ce stade-là, c'est désespéré. Malheureusement, je pense que ça aurait été peut-être encore possible il y a une vingtaine d'années. Mais là, avec la succession des événements tels qu'ils sont en train de se mettre, malheureusement, les événements, ils sont pour moi principalement au nombre de quatre. C'est la démographie, donc ça veut dire la destruction de l'habitat de la faune et de la flore, fatalement. Ça commence en général par la flore, et puis ça fait disparaître l'habitat de la faune. Ensuite, il y a le problème suite à la. Au bombardement de la Libye et du djihadisme dans toute la sous-région, qui aujourd'hui empêche quasiment toute intervention par des rangers dans les zones naturelles, puisqu'elles sont truffées de terroristes, et les rangers ne sont pas des soldats des forces spéciales, ce sont des gardiens, des défenseurs de la nature. Donc ils sont pas formés à ça, c'est pas leur mission et c'est pas leur profil. Ensuite, il y a eu le Covid, qui a fait énormément de mal aussi. Les gens, à juste titre, se sont recentrés, puisque c'est ça qu'on les a forcés à faire, sur eux, sur leur maison, voire même juste sur leur écran de travail. C'est trop loin, c'est devenu trop loin pour qu'on s'en soucie réellement. Et puis là, on enchaîne avec la guerre en Ukraine, et là, c'est normal que nos regards sont tournés vers là-bas, puisque c'est pas très loin, l'Ukraine, soyons clairs, c'est pas très loin. Donc voilà. Aujourd'hui, la faune, c'est un combat que je continue de mener autour de Sergio, Arthur, Édouard. Ça, c'est vraiment le noyau dur, et de tous les autres. Mais alors, même si on ne peut pas le dire ici, on le dit quand même, ça reste quand même une cause qui est de plus en plus perdue, à grand regret.
Perdu, en tout cas en mauvaise passe, mais je pense que, enfin, moi je suis un éternel optimiste et je me dis que merde, même si on perd, admettons, les éléphants ou les lions, on va continuer de se battre pour toutes les autres espèces, tu vois. Et y a pas, moi je lâche pas l'affaire, je suis une tank, tu vois. Un connard, j'en ai rien à foutre, j'arrête pas. Comment on peut aider cette cause? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens européens, occidentaux? Comment on peut aider, comment on peut assister cette cause-là ou est-ce qu'il y a des pistes?
Aujourd'hui, honnêtement, Si je dois donner une piste, évidemment, il y a l'ONG. Elle collecte des fonds puisque bon, ça passe toujours par ça passe toujours par là. Elle existe, son site internet existe. On peut aider de cette manière-là, mais aider de manière plus concrète. Je pense qu'aujourd'hui, ce sur quoi on réfléchit de plus en plus, c'est de former des individus ici sous nos contrées, donc en France notamment, pour pouvoir ensuite les envoyer auprès de nos partenaires sur des missions qui sont des missions au risque très limité. Pourquoi? Parce que l'idée, ce serait de miser sur les réseaux sociaux, de se dire plus on est à parler de quelque chose et à montrer quelque chose, fatalement, moins c'est facile de le faire disparaître sans que ça se voit. Et donc là, aujourd'hui, on travaille sur cette stratégie-là. Je pense que dans un délai assez bref, on va commencer à former. Nos premiers Rangers nationaux. Ça a une manière d'aider, plus active. Ces personnes-là, elles auront la chance d'être formées par des gens qui connaissent vraiment très très bien à la fois la cause ou des savoir-faire plus techniques comme celui que moi je maîtrise. Et puis après, ils vont avoir ces yeux, ce rôle d'observateur actif. Sur place, à la fois pour rendre compte du travail incroyable de ces hommes et ces femmes qui sont payés 80 dollars par mois pour partir en autonomie pendant des jours entiers ou dans la brousse ou dans la savane ou dans la jungle, risquer leur peau pour essayer de sauver ce qui reste de protéger plutôt ce qu'il reste à protéger. Donc voilà, ça c'est les axes. Et pour tous ces renseignements-là, il faut passer par l'ONG, Wildlife Angel. Le site internet est facile à trouver. Et puis,
Yes, Wildlife Angels. Je redirai à la fin toutes les références à tes bouquins, le site, etc. Comme ça, les gens pourront prendre des notes facilement.
D'accord.
Yes. Comment tu vois l'avenir, du coup?
Ah, là, c'est.
La question à 2 millions de dollars.
Là, elle est vraiment compliquée. Tu vois, là, normalement, je dois partir. Je suis parti là sur une expédition pour Honda Motor l'année passée,
Ouais.
qui nous avait fait traverser des coins incroyables et notamment une bonne partie de la Sibérie. Et là, je devais repartir avec eux cette année pour cette fois-ci un tour du monde entier. Et toute une partie se passe après Kazakhstan. Il y a une remontée vers la Mongolie, puis toute une traversée de la Sibérie. Voilà, cette question-là, déjà à mon niveau, elle se dit, le départ, là, il a lieu en août. La Russie, c'est qui va aller en Russie là aujourd'hui?
Ah non.
Possible d'aller en Russie? Oui, non. Donc, ce que je veux dire par là avec cet exemple-là, c'est que voir l'avenir, mais moi aujourd'hui, je crois que je suis comme 90% des personnes, c'est que on verra bien demain déjà. Mais en attendant, dans le fond, ce qui est certain, c'est que j'ai comme. Beaucoup de personnes qui t'écoutent et à qui tu t'adresses. J'ai deux vitesses d'exécution dans ma vie. J'ai celle qui vit sur la ligne normale, cette espèce d'échelle de temps normale. Aujourd'hui, j'ai ça à faire. À 14 heures, je discute avec David. Et puis j'ai ceci, j'ai un appel à telle heure. La semaine prochaine, il faut que je remette tel article. Puis je pars donner une formation tel jour. J'ai ce fil qui se déroule. Et à côté de ça, j'ai un autre fil qui, lui, est OK. Il y a le stock que j'ai préparé, il faut que je remplace cette partie-là, il ne faut pas que j'oublie de recommander mes filtres pour le berquet, il faut que il y a ces deux fils, c'est-à-dire que j'observe le monde et je suis mon programme entre guillemets professionnel et familial, et à côté de ça j'ai toute une ligne de préparation que j'accélère. Cette ligne-là, ces 2 dernières années, elle défile plus à la même vitesse. Et je pense qu'aujourd'hui, Comme il est impossible de miser en COPEC sur ce qui se passera le mois prochain, il est très important pour les personnes qui sont ton audience, ton public, et le mien à travers le magazine Survival, de absolument pas lâcher l'affaire et on va dire d'accélérer justement cet écoulement temporel de cette deuxième ligne, et de se dire voilà, et à tout moment, il faut être prêt de basculer de la ligne entre guillemets de la normalité et de sauter sur l'autre en se disant on enclenche ici. Et plus tu fais circuler, en tout cas dans ma manière de fonctionner, ces deux lignes de manière bien parallèle, même si elles sont à des vitesses différentes, ça permettra le jour où il faut basculer sur l'autre de considérer que c'est quand même une normalité.
Bien
Donc voilà
sûr.
un peu là aujourd'hui comment je vois l'avenir. Alors c'est vraiment pas très sensationnel comme révélation, mais pour le reste je peux pas vraiment prononcer. Ce qui est certain, c'est que là, par exemple, je reviens de l'Iowa. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Iowa, on va dire qu'après le SHOT Show, c'est probablement le rassemblement des professionnels de l'outdoor, de l'armement et de la chasse le plus important au monde. C'est un salon qui se passe à Nuremberg, en Allemagne, et qui est juste immense. Toutes les majors sont là, toutes les grosses boîtes, Glock, Colt, Remington, ils sont tous là, plus tout le milieu outdoor. Donc, tout ce que vous pouvez connaître comme marque, ils sont, hein, de Petromax à Fjällräven, en passant par Osprey, tout le monde est là. Et donc, ce show n'a pas eu lieu pendant 2 ans à cause du Covid. Et là, c'était la reprise. Et pour donner une idée, c'était donc normalement, c'est quand même pas loin de 1600 exposants. Cette année, il y en avait 950. Et il y avait plein de halls qui étaient vides, à moitié vides, qui étaient meublés. On voyait bien que c'était du remplissage avec des snacks par-ci, des plantes par-là. Et ça donne clairement une indication de où, parmi les plus grandes industries du monde, on sent qu'il y a une contraction des marchés, une contraction de l'industrie et que tout le monde est tendu. Si on couple ça aux pénuries qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui et avec tous les professionnels avec qui j'ai eu la chance de discuter là-bas, d'une manière ou d'une autre, ils sont touchés par ces pénuries, que ce soit sur les matériaux électroniques, soit sur les ferreux, donc toutes les matières premières liées à l'acier, le bois, pas mal de problèmes de bois. Il suffit de voir aujourd'hui les problèmes d'alimentation en pellets pour ceux qui se chauffent avec ça en France. Toute cette question des pénuries, plus ce qui est en train de se passer là en Ukraine aujourd'hui, avec toutes les conséquences attendues et inattendues. Sur l'économie mondiale, parce que on croit qu'on ne fait que punir Poutine, mais en punissant Poutine, fatalement, on se punit nous-mêmes et ça ne manquera pas d'avoir des effets. Je pense que, alors moi, je peux aussi parler, si je superpose à ça, par exemple, la crise du papier, qui est sans précédent, puisque avec les mags et tout, je suis un peu, on va dire, informé par ça et directement confronté, hein, par exemple, si je prends le survival, il va diminuer d'un centimètre et demi sur un centimètre et demi là, et changer de papier à partir du prochain numéro. Alors, tout ça, c'est des détails, ça peut paraître des détails, c'est tous des signaux qui sont même plus de l'ordre des signaux faibles. C'est que là, alors moi, je n'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure, mais le truc, il est vraiment en train de se casser la gueule, quoi. Selon moi, de ce que j'en vois là, partout où je vais dans le monde, et puis, en faisant comme tout le monde, là, en lisant à la fois les lignes et entre les lignes, en prenant le point de vue de celui-là et puis celui à 180 degrés, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont rouges. Alors Mike Horn, il dit qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient tous au rouge pour se mettre en route. Ici, il n'y a pas besoin qu'ils soient tous au vert pour se mettre en route. Mais moi, je dirais l'inverse de Mike Horn, il n'y a pas besoin qu'ils soient tous en rouge pour basculer sur l'autre ligne et se mettre en route dans la préparation.
Et déjà commencer à anticiper et se préparer et se former parce que c'est bien beau d'acheter du matériel, mais si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien évidemment. Donc de se former dessus, des formations, de s'entraîner, tisser du lien aussi. Tu parlais tout à l'heure de la Belgique et des récupérations politiques entre les Flamands, les Wallons, etc., et de la mise en tension et où les politiques font des mayonnaises avec les groupes ethniques, entre guillemets. Et j'ai l'impression que y a une partie qu'on a tendance à oublier, c'est la responsabilité et la capacité des gens, en fait, à pas jouer le jeu, tu vois. À pas jouer le jeu de la crise et de la montée en tension contre le voisin et de pouvoir tendre la main au voisin flamand ou wallon et continuer à aller boire des bières de l'autre côté de la ligne de démarcation, tu vois. Et je pense que, paradoxalement, l'autonomie et la préparation, en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les gens que j'ai en stage ou avec qui je discute, avec des gens comme toi, etc., c'est que l'autonomie et les moyens qu'on a de se démerder et de passer, comme tu dis, sur la deuxième ligne, favorise vachement aussi la coopération, en fait, et l'entraide et la capacité d'être moins flippé et moins paniqué, d'aller tendre la main au voisin qui a besoin d'aide et de mettre en place des cercles vertueux un peu. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Comment tu te situes par rapport à ça?
Moi, là, sur mon exemple personnel, j'ai un endroit qui est un endroit loin de ville, qui est en campagne. Et je me donc fatalement, j'ai la chance d'habiter un endroit quand je suis entre deux missions ou entre deux boulots ou entre deux bouclages de magazines où on va se ressourcer avec ma famille qui est loin de toute ville. Et les gens qui sont autour de nous là-bas, ce sont des gens essentiellement du monde rural qui ont déjà une vision plus sereine de ce qui se passe, même ils ont leurs inquiétudes aussi. J'ai identifié cette sérénité relative au fait que y a plein de choses qu'ils ont sous leur contrôle. Les gens qui me parlent de manière plus sereine de tout ça, en me disant, oh, vous savez, mon petit bonhomme, on en a vu d'autres quand même, hein, ça va aller. Tu regardes derrière eux et tu vois que ils ont pas loin de 100 stères de bois qui sont secs. Tu vois qu'il y a un poulailler. Tu vois que le monsieur, il s'est tout à fait manié une faux. Qu'il n'y a pas d'halogène à l'extérieur qui illumine quoi que ce soit. Tu vois que quand il repart, il va arroser les choux avec de l'eau qu'il va chercher dans un puits. Et tu sens tout de suite, lui, il est plus serein par rapport à
Ah
toutes
ouais.
les choses. Tu vois? Déjà pour moi, ça, c'est clair que si on a encore besoin de leçons pour savoir quel est l'axe à prendre, l'axe important sur les préparations, ça en est clairement un. Ensuite, ce que je me rends compte également, c'est que dès que tu commences à créer du réseau avec ces personnes, la tâche de préparation telle que tu l'étais imaginée en l'intellectualisant ou en allant en formation ou en lisant, eh bien, elle devient tout de suite déjà beaucoup moins fastidieuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un paquet de trucs, ça ne va pas être nécessaire de le faire. Lui, il le fait très, très bien. Moi, depuis que je suis, par exemple, installé là-bas, un jour, j'étais appelé à 2 h du matin par un des voisins qui savait que j'étais médic et donc il avait son petit-fils qui était chez lui et qui faisait une crise d'épilepsie assez sérieuse, tu vois, il est venu me réveiller en pleine nuit et puis j'y étais, j'ai pris mon sac, j'avais tout ce qu'il fallait parce que là le délai d'intervention quand même là le SAMU ça a pris une bonne heure pour qu'ils arrivent et puis pour qu'ils trouvent, c'était assez compliqué, ça a pris une bonne heure et le gars a fini par me dire, mais c'est top que tu sois là et c'est cool qu'on sache que tu es là, quoi. On
Ah ouais.
pourra. Et ben ça marche de la même manière. J'ai pu lui renvoyer le même truc. Je dis, mais pour moi, tu sais, c'est cool de savoir que tu es là parce que je sais que toi, tu sais exactement comment on fait pour pêcher. C'est un super bon pêcheur. Et là où on a tous plein d'étangs avec des poissons et il sait comment on gère le poisson, comment on le sèche. Je dis, ben c'est top que tu sois là. Et tout de suite, ça devient, comme tu le disais tout à l'heure, moins flippant en fait. Tu te rends
Ah
compte
ouais.
que dès que tu vas commencer à créer du lien, en fait, on est plein à savoir plein de choses et on est là. Il suffit de mettre un peu tout ça en commun. Et ça semble beaucoup moins fastidieux que quand tu le lis sur de la théorie ou même dans le meilleur des bouquins qui soit et qui dit, attention, faire du lien, c'est vachement important. Et tu
ouais,
dis,
mais c'est
il faut
théorique.
Trouver les bonnes personnes, il me faut leur CV, que je vois s'ils sont intéressants, est-ce que je perds du temps à discuter avec eux. C'est beaucoup plus simple que ça, en fait.
Si ouais, grave.
Et t'as raison. Et bon, toi, tu prends ça depuis un bon bout de temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'avais pas d'endroit. J'étais toujours très, très nomade. Mais comme on s'est fait jeter dehors de France en 2020 avec le début du Covid, puisque nous, on vit en van, donc on nous a renvoyé chez nous, sauf qu'on n'a pas de chez nous. On a une plaque d'immatriculation qui dit que le véhicule est immatriculé en Belgique, mais on n'y a pas de logement. Mais bon, on a été renvoyé chez nous, c'est là qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve un endroit, et c'était très bien, il fallait qu'on le fasse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus facile dès qu'on s'installe et que quand on commence à habiter, mais au sens premier d'habiter, quand on habite vraiment un lieu, c'est-à-dire que quand on fait plus que l'occuper géographiquement et physiquement, c'est-à-dire que quand on le vit, ça devient plus simple.
Ouais, et on peut faire du lien super facilement, les gens nous connaissent, on connaît les gens, ça s'organise quasiment tout seul. Et c'est un truc qui m'a frappé, moi je viens du Québec, tu vois, enfin je suis né en Belgique, j'ai grandi au Québec et j'ai grossi en France, c'est ma vieille blague de merde, mais quand, ayant grandi au Québec, il y a une manière habituelle de s'entraider parce que l'État est loin, tu vois, l'hôpital le plus proche de où j'ai grandi, c'est 1h15 de route. On a toujours appris à se démerder entre nous, à s'entraider, à serrer les coudes, à être plus ou moins autonome. Et ça me semble être une manière ordinaire de faire ou normale de faire. Et j'étais choqué en arrivant en France, dans mon petit appart. Je me souviens qu'il y a un truc qui m'a heurté, c'est que je ne pouvais pas dire nous. Je pouvais dire que je, tu vois. Et ça me manquait de pouvoir dire nous ou on va faire ça ou tu vois, il y avait toujours je ou à la limite nous, c'était moi et ma copine de l'époque, mais il n'y avait pas de nous, tu vois. Et là, j'habite dans un endroit, on peut dire nous. Pendant le Covid, le hameau où j'habite, on a créé un petit groupe WhatsApp pour se faire des listes de courses, et on allait à tour de rôle et machin, et on a fait du troc avec le berger à côté, et c'était génial. Et il y a un nous qui a émergé face un peu à l'ennemi commun du Covid, tu vois. Et ce nous, c'est quelque chose qui existe vachement fort dans les cités aussi, dans les banlieues et tout. On a un sens de la communauté déjà, enfin, communautaire au sens premier, dans le sens il y a les Tchétchènes, il y a les Algériens, il y a les machins du bloc 22, tu vois. Mais il y a une espèce de solidarité, un peu de ghetto, tu vois, un peu de cité qui est hyper forte, et les gens s'entraident un max dans ces coins. Ouais, et au final, l'individualisme un peu flippant qu'on vit, c'est surtout un problème de riches, j'ai l'impression, tu vois, c'est un problème de gens citadins qui ont des boulots, leur petit appart ou leur petit pavillon, et qui se retrouvent isolés à dire « je » et à être pas bien à cause de ça aussi, tu vois.
Oui, tu as tout à fait raison. Là, Laurent Ozon vient d'écrire un super papier pour le prochain numéro de Survival, qui est justement la coopération en situation de stress maximale. C'est ça le titre de l'article. Alors, c'est un peu pointu, c'est du Ozon. Mais par contre, dedans, il explique exactement ce que tu viens de dire, à savoir que finalement, cet esprit de coopération, il va se construire et il va développer son plein potentiel pour gérer un stress maximal. Il va se construire autour finalement de personnes qui ont des valeurs ou un problème commun ou un ennemi commun ou une peur commune, tu vois. Et plus on va être là-dedans et plus on va construire autour de ça et poser. Et là, quand tu parlais des cités, ça me faisait exactement penser à ça, quoi. Ils ont, c'est clair que c'est des groupements de personnes, c'est des populations qui ont une peur commune, justifiée ou pas, qui ont un ennemi commun, justifié ou pas, peu importe. Et ça, ça va leur donner une force de coopération. Et peu importe le stress, peu importe le niveau du stress, ce plein potentiel va s'exprimer. Plus il y aura du stress, plus ce plein potentiel va être exprimé, quoi. Et donc, ça fait lien avec ce que tu dis là.
Clairement, c'est un truc que j'ai vachement étudié pour mes stages, mes formations, etc. Et on voit la coopération qui émerge dans ces moments de stress, mais aussi même un sens de la communauté qui manque après. Que les gens ont limite la nostalgie du tremblement de terre ou de l'incendie de toute la ville, parce qu'il y a eu un moment de solidarité et d'humanité super fort dans ces moments-là. Et voilà, il n'y a qu'à voir comment aujourd'hui Vladimir Poutine est en train de fédérer l'Europe et de pousser tout le monde à un peu se sortir les doigts pour se remettre à niveau en termes d'opérationnel et de préparation des populations aussi. Je ne sais pas si tu as vu, là, ils ont sorti un rapport d'information sur la résilience du pays et des citoyens. Je l'ai posté sur mon fil Facebook aussi, mais qui est vachement intéressante parce qu'ils reprennent littéralement tout ce qu'on raconte, nous, depuis une dizaine d'années, tu vois. D'autonomie énergétique, alimentaire, former les citoyens, les engager et machin. Enfin, j'ai lu le truc, j'ai fait putain, bah, c'est parfait. Juste un peu en retard, tu vois, mais c'est parfait.
Ouais, je pense que si effectivement il y a un point positif à ce qui est en train de se passer là, et quand je dis ce qui est en train de se passer là, bah, c'est notamment le conflit évidemment Russie-Ukraine, mais également le Covid qui a précédé, et peut-être même les gilets jaunes où ça s'est amorcé, bah, c'est que les gars, il faut se réveiller. On a été, voilà, c'est la fin de la récréation, ça a été super cool pendant tout un moment. On vous a dit certaines, on va dire, pour prendre un terme à la mode, certains lanceurs d'alerte vous ont répété pendant toutes ces années, n'oubliez quand même pas de vous former, de garder l'esprit vif, de quand même anticiper, etc., etc. Et là, aujourd'hui, bon, c'est OK, bon, il faut le faire vraiment, OK, ouais. Maintenant, il faut le faire vraiment.
Ouais, on sort de la théorie d'un coup, et oui. Moi, je trouve ça encourageant, personnellement, tu vois. Ouais. Et je vois plein de gens qui, il y a deux semaines, ne savaient pas que ça existait. Des journalistes qui m'appellent et qui font « Ouais, est-ce que vous avez plein de gens qui se rugent sur vos formations ?» Et je fais « Bah non, enfin, là pour le moment, j'ai surtout des journalistes qui partent en couvrir le conflit, qui me donnent des conseils. » Là, la meuf qui me fait « Ah ouais, mais ça m'intéresse, blabla. » Tu vois, il y a tout un… Ça devient concret, en fait.
Ouais.
Ça devient concret. Est-ce qu'il y a quand même des trucs qui te donnent de l'espoir ?
Oui, moi, si on pouvait arriver à la fin, de toute façon, de l'époque de suropulence et de surconsommation débridée, moi, j'accueillerais ça avec une grande satisfaction. Dire, OK, on va arrêter le gâchis. On a compris que ce n'était pas inépuisable. La preuve, ça, tout commence à manquer un peu partout.
On va y venir de gré ou de force, j'ai l'impression.
Pardon ?
On va y venir de gré ou de force, tu vois.
Exactement, mais moi ça m'arrangerait. Je trouverais ça d'une manière. Si on pouvait changer ce. Je vois déjà que ces difficultés, là aujourd'hui, elles sont de l'ordre d'un conflit, mais elles vont l'être d'autres ordres très bientôt. Les pénuries notamment dont je parlais, on voit que ça force à la coopération, à la remise en question et à l'adaptation. Et donc ça, je me dis qu'on va être sur des modèles qui vont être peut-être plus coopératifs que compétitifs. Et en ça, ça par exemple, c'est quelque chose qui moi me donne de l'espoir. Je me dis, à partir du moment où on sera plus dans la coopération, tout simplement résoudre une équation, même si elle est égoïste, c'est-à-dire pour pouvoir garder sa commodité, de savoir comment on peut faire plus avec moins, on va coopérer autour de ça et on ne va plus être dans la compétition. Ce ne sera plus qui fait le plus, tu vois, le plus.
C'est de toute façon, même d'un point de vue complètement égoïste, la coopération, c'est plus payant que la concurrence. Ça a été démontré maintes et maintes fois par la théorie des jeux, etc. Enfin, même si tu penses qu'à ta gueule, il vaut mieux coopérer, tu vois.
Mm-hmm. Donc moi, ce côté-là me rend quand même plutôt confiant. Maintenant, qu'est-ce qui peut encore me... Honnêtement, qu'est-ce qui me rend... Tu vois, par exemple, le Covid, c'est un truc où moi j'avais trouvé le ralentissement généralisé comme étant un facteur très intéressant. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé plus de temps avec ma famille, j'ai passé plus de temps à réfléchir, j'ai passé plus de temps à prendre du temps pour faire les choses, que je les fais toujours, la moitié de celles que je fais, je les fais à l'arrache coincée entre 25 autres choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me plairait que ça s'inverse, que ça s'inverse, ouais. Et je pense qu'on va être forcé de ça.
Il y
Voilà.
a, y a, y a plein de gens qui m'ont fait ce même feedback après le Covid, après le premier confinement, que en fait, ils n'avaient pas envie de retourner au boulot, tu vois. Ils se sont fait, ouais, mais en fait, c'est génial, j'ai du temps, je joue avec mes gamins, je vois ma femme, on prend le temps de cuisiner, on rigole, il faisait beau en plus, donc ils restaient, tu vois, un peu enfermés à proximité de la baraque, mais tous ceux qui avaient du terrain, c'était génial.
Génial.
Après, ceux qui étaient dans le studio à Paris, je pense que c'était pas le même délire, mais. Mais bon, il y a eu un ralentissement et un temps plus long pour les choses de base comme manger, vivre, faire l'amour à sa meuf et être là, quoi, tout simplement, qui a fait du bien à plein de gens. Et les gens, Christian Clos, ils ont sorti une étude, des résultats d'études de Covadapt, qui était une étude sur le Covid et l'adaptation au Covid. Ils ont vu que les gens étaient plus stressés au moment du déconfinement qu'au moment du confinement. Et
Bah, je
c'était
suis
intéressant.
absolument pas étonné. Ce qui démontre clairement que un autre modèle sociétal serait à la fois possible et apprécié,
Mais
hein,
carrément.
pour la plupart. Là, on a fait des choix qui nous ont amené à ça. On pourrait très bien retourner, là, comme je l'écrivais dans un édito pour un bouquin là, de quelqu'un, on pourrait retourner au dernier carrefour en regardant en arrière et se dire, mais c'est à ce carrefour-là qu'on s'est planté en fait. On va retourner là-bas, mais avec le savoir qu'on a ici aujourd'hui, tu vois, on va là-bas. Et là, on prend l'autre voie, on essaie de construire autre chose et on calque le savoir qu'on a du 21e siècle avec le moment arrêté, là où on est remonté, et on reconstruit autre chose. Et on pourrait tout simplement admettre, ce n'est pas interdit non plus, tu vois, on a fait de la merde, c'était une erreur, tu vois, là, ça y est, on n'aurait jamais dû faire. Et ce n'est pas
Ouais.
grave, tu vois, ce n'est pas grave, on
On
ne
a
vous
appris.
oubliera pas. Exactement, on a
On a
appris qu'il ne faut
appris.
pas le faire. Et la vraie liberté aussi, c'est ça, c'est de savoir aussi que il y a des choses qu'on ne doit même pas désirer. Il faut pas les désirer parce que si tu les désires, tu vas être dans la souffrance. Et puis si tu les accomplis, elles vont entraîner toute une série de choses qui seront le contraire de la liberté. Donc la vraie liberté, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait même pas envisager de faire. Ben là, je pense qu'il y en a certaines qu'on a fait, qu'on continue de faire et qui serait bien d'arrêter au plus vite.
Ouais, je suis totalement d'accord et je pense que y a plein de gens qui reviennent à ça, tu vois. Moi, en stage, je rencontre des gens quasiment à chaque stage. À chaque stage, la majorité des gens sont en mode, bon, écoute, je m'emmerde, mon boulot, c'est de la merde, ça n'a pas de sens. Et même des gens, tu vois, qui sont engagés, qui sont dans des institutions, tu vois, militaires, à l'OTAN ou machin. Ils font des réunions sans objectif et ils disent mais ok mais ça sert à quoi ce qu'on fait c'est quoi l'objectif chef et ils écoutent sincèrement la réponse et il n'y a pas de réponse tu vois et il y a une espèce de système qui s'auto-entretient juste parce qu'il faut qu'il continue de se perpétuer mais on sait pas trop toujours pourquoi ni comment et on bosse parce qu'il faut bosser et on va à l'école parce qu'il faut aller à l'école etc mais à un moment donné si on se pose juste la question de ouais mais pourquoi on fait ça? Pourquoi je m'emmerde en fait? Et on cherche vraiment la réponse et on se fait. Bon.
Bah, tu vois, ça c'est aussi une des raisons, tu me demandais tout à l'heure ce qui pourrait me faire espérer, c'est aussi de rencontrer de plus en plus de gens qui effectivement tiennent ce genre de propos. Je me dis, en fait, le monde, il est en train de sortir d'un long cauchemar
Ouais.
peut-être, il est en train de se réveiller, et il y a plein de gens partout qui se réveillent et qui se disent, et plus on est, et plus on est à le dire, moins les gens qui sentent quelque chose, mais n'osent pas trop le dire se disent, bah, on peut le dire, il y a plein de gens qui le disent, donc en fait, je suis
Mais
pas
ouais.
tout seul, quoi. Et plus on sera, bah, évidemment, ça donne de l'espoir. À travers le mag, les courriers des lecteurs ou les gens qui nous écrivent pour nous dire, c'est bien, moi j'ai suivi ça un peu en observateur depuis longtemps, mais là, avec les événements, je suis en train de passer à l'acte et je me rends compte qu'en fait, on peut vivre beaucoup plus simplement, etc., etc. Et je me dis, mais en fait, on est plein, et cette prise de conscience, elle est là, quoi. C'est assez foisonnant.
C'est
Et donc,
clair.
je pense que là, il y a un mauvais moment à passer, ça c'est clair. Mais après, il va y avoir probablement quelque chose sans tomber dans l'angélisme et se dire,
Hein?
ouais, super cool, tu vois. Non, l'essence à 2,02 € pour plein de gens, c'est pas drôle du tout là maintenant. Il y a plein de trucs qui vont pas être drôles. Mais quand même, là-dedans, il y a toujours moyen de reconstruire. Et pour ça, je reviens à mon histoire là, des deux lignes de temporelles qui défilent. Il faut jamais oublier pendant ce qu'on fait là, la deuxième, de se préparer et de se dire que en réalité, c'est peut-être la deuxième là que je suis en train de préparer, qui est la normalité ou en tout cas la nouvelle normalité. Et ça,
Ouais.
c'est vachement important. Sinon, ton monde s'arrête et là, bon, bah, il se passe quoi, quoi.
Ouais, c'est clair. Et ça fait du bien de repartir des bases, des vrais besoins, des vrais problèmes. Parce que moi, je pense vraiment, et c'est un truc que je dis souvent, c'est que en tant qu'espèce, en tant qu'individu dans cette espèce, on n'est pas câblé pour faire face à des problèmes abstraits les uns contre les autres, tu vois. On est vraiment câblé pour se serrer les coudes, tu vois, face à du gros concret, genre le tigre à dents de sable, il vient, il chope un petit à nous à côté du feu et il l'amène dans la nuit, tu vois. Et nous, on chope des cailloux, on court derrière, on défonce le gros chat, on récupère le gamin. Ça, c'est notre truc. C'est des problèmes concrets ensemble et on se serre les coudes. Et je pense qu'il y a un truc qui nous fait du bien juste d'avoir des problèmes concrets à gérer ensemble. Et je vois en stage, les gens, ils sont juste autour du feu, il se met à pleuvoir, ils sont contents parce qu'ils montent une grande bâche et tout le monde se met dessous et on se fait passer, tu vois, une boisson chaude, on fait tourner le saucisson ou le bout de fromage. Et juste ça, les gens sont ravis, tu vois, parce que c'est simple et c'est ensemble.
Exactement. Et ce que tu expliques là démontre aussi notre limite à pouvoir nous projeter. Alors, on vit dans un monde où on ne doit pas arrêter de se projeter dans l'avenir. Je parle au niveau des plannings, des agendas, de ce qui se passera l'année prochaine, de quand il faut planifier tel. Mais en réalité, l'être humain, il est relativement mauvais pour faire ça. Il est bien meilleur pour ce que tu viens de dire là. Il
Ouais.
vit sur le moment, il fait ce qu'il y a à faire. Il y a un problème, il le résout. Mais s'il faut qu'il commence à penser que parce qu'il est en train de faire de creuser une mine d'or sur 4 km, et après il va y avoir un bac de cyanure qui peut s'effondrer dans 2 ans en contaminant le ruisseau. On est très mauvais pour faire ça. Alors il faut arrêter de le faire, tu vois.
C'est
C'est
trop
le truc,
abstrait.
comme je disais tout à l'heure, retournons au chemin précédent, c'était pas pour nous cette histoire-là, tu vois.
N'est pas assez malin pour ces trucs compliqués.
Ben, en tout cas, on n'est pas bon dans la projection. On est vraiment dans l'immédiateté. Oh, ça va être bien, on va avoir plein d'or, on va se faire du pognon, ça va être top, tu vois. Voilà un peu dans quoi ils sont les mecs qui le font, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas bien, c'est pas une bonne idée. Il faut arrêter.
D'accord, et puis bon, alors
Ouais.
c'est lourd, si on veut bouger avec, c'est encombrant.
Et puis ça sert pas à grand-chose. Soyons clairs.
D'accord. Yes. Bon, c'est quoi tes prochains projets du coup? T'es sur quoi en ce moment là?
Bah écoute, là il y a toujours Survival là qui change de formule complètement. Le nouveau numéro sort dans on est en train de le monter, il va sortir dans un gros mois. Nouveau format, nouvelle maquette, nouvelle rubrique, avec beaucoup plus d'articles de fond sur de l'analyse, de la pensée, parce que le monde le justifie pleinement. Là, en fait, bah, ce que tu penses, ce sur quoi tu as consacré une bonne partie de ta vie professionnelle, et puis ce dont on parle, nous, dans Survival, bah, aujourd'hui, on y est. C'est plus une projection, c'est maintenant. Donc, ça semble évident qu'avant, dans le mag, le survivalisme était plutôt considéré comme une succession de savoir-faire qu'on exposait un derrière l'autre dans le magazine, un peu comme une activité qu'on fait en parallèle de sa propre existence. Mais là, aujourd'hui, les faits montrent que on est là-dedans, on a passé ce point de rupture, et donc il fallait que la ligne s'adapte à ça. Donc ça, c'était le premier gros projet. Deuxième, on sort On m'a confié deux autres magazines, un magazine qui s'appelle Bushcraft, un magazine que je fais avec Alban Camp. Donc là, bah, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, c'est un magazine de Bushcraft, avec ce qui compte, les auteurs bah, qui comptent vraiment, ou en tout cas qui ont quelque chose d'intéressant à dire ici en France et ailleurs. Et puis, on lance un autre magazine qui s'appelle Slow Trip Magazine, qui est le. Bah, comme son nom l'indique également, un magazine consacré au voyage, bah, au voyage sous toutes ses formes, mais où la lenteur prédomine, où l'autonomie idéalement prédomine. Donc ça, c'est un mag que je fais avec Laurence Van der Hagen, qui est assez chouette aussi. Le premier numéro de Bushcraft, bah, ça c'est pour mai, et le premier de Slow Trip pour juin. Alors, bah, il va y avoir le salon de l'outdoor et de l'autonomie qu'on prépare aussi, puisque là, je vais donner une conférence et puis représenter le magazine Survival. En parallèle, bah, j'ai quelques formations à donner ici en France, plutôt orientées pour le milieu outdoor, le milieu naturel, et encore un petit peu pour le milieu tactique, pour certaines institutions. Et puis, bah, a priori, comme je l'ai dit tout à l'heure, je devrais repartir pour la société Honda, qui organise un tour du monde à Bécane. Avec le départ, ben, eux ils partent en avril. Moi, je les rejoindrai très probablement en août, qu'une traversée de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, puis l'Australie, et puis l'Amérique du Sud, de Carthagène à Ushuaia, et puis la remontée par l'Afrique vers l'Europe. Donc, faire le soutien médical pour eux. Donc là, ça va être pas mal parce que ça va être. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peuples qui vont être. Beaucoup de rencontres qui vont être possibles. Et puis beaucoup de manières de faire. Et puis c'est par les pistes. Donc aussi beaucoup d'aventures. Donc c'est intéressant.
Très génial.
Ouais. Et puis là, je suis en train de terminer la réédition de Secourir en zone hostile, puisque le livre est épuisé là depuis quelques mois maintenant. Et là, il va sortir bah, à l'occasion du salon.
Ma copie.
Oui. Bah oui, donc là, on l'a réimprimé deux fois, mais il n'y en a plus. Donc là, on va le faire.
Super
Puis,
bouquin.
merci. Les
Super
choses,
bouquin.
elles ont quand même bien bougé depuis qu'il a été écrit. Donc, il était temps aussi de remettre un peu tout ça à jour, à la fois au niveau du matériel, des savoir-faire, de la connaissance médicale qui a quand même aussi évolué sur ces questions-là. Voilà, ça c'est pour l'immédiat. Sinon, à côté de ça, bah, comme je te l'ai dit, je continue dans mon petit coin de paradis, là, dans ma cabane au milieu de la forêt et près des étangs, bah, à mettre en place ce qu'il faut pour le jour où bah, le changement de paradigme s'accélère et qu'on décide de repartir vers plus de simplicité.
Ouais, et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre que ça pète pour y aller, en profiter.
Ça, c'est clair. Ça, c'est
Moi,
clair.
c'est un peu pareil. Je vais à la campagne au fond d'une vallée, et j'ai. Enfin, je ne suis pas arrivé là parce que j'avais peur que ça s'écroule. Je suis arrivé là parce que c'était beau et les gens, ils étaient cool, tu vois. Et c'est. J'aime le contact avec la nature et l'aspect chaîne courte, tu vois. Je coupe mon bois, je le fais sécher, je le mets dans mon poêle. Et c'est vachement plus satisfaisant pour moi de faire comme ça, tu vois. Et basta. Évidemment, si ça pète, je suis prêt, je pense. Enfin, je suis plus prêt que la moyenne des gens, mais j'en profite avant. Et je pense que c'est une démarche, comment dire, la ligne B, de la plupart des gens, pour moi, c'est ma ligne A, tu vois.
Ouais, je pense que une partie de la vérité, elle est là, selon moi. C'est d'être déjà dès à présent sur cette ligne B, A, comme on veut, mais d'être avec quelque chose qui ralentit, quelque chose qui simplifie, quelque chose à tout point de vue, quoi, qui simplifie nos besoins, mais nos attentes, etc., etc. Je pense que pour moi, la clé, elle est là. Aujourd'hui, ouais, celui qui peut arriver à imaginer le canevas de fonctionnement pour permettre ça, bah, il est certainement sur la voie de la vérité.
Ah, et puis chacun son style aussi, chacun sa manière de faire, tu vois. Je pense que la diversité des manières de faire aussi est une super richesse et on peut, tu vois, on peut échanger plein de trucs avec tout le monde. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a le voisin qui s'est bien pêché et moi, mon proprio, enfin, c'est un mec du pays, il connaît tout, tous les petits sentiers que personne connaît, qui sont pas sur les cartes et les puits et les trucs. Et je lui paye l'apéro, tu vois, et je discute pour avoir les infos, mais il me lâche pas tout, tu vois. Et mais il m'a filé un coin champignon il y a pas longtemps, mais c'est pas celui qui va, tu vois, celui du voisin. Bref, mais ouais, et d'échanger comme ça avec plein de spécialités différentes et plein de savoir-faire différents, c'est hyper enrichissant et c'est cool.
C'est clair.
Yes. Bon, le mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, ouais, on pourrait dire que la fin d'un chapitre, c'est toujours l'occasion de commencer à en écrire un nouveau. Et voilà, donc je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et après, tout le reste, c'est notre imagination, c'est la
Yes.
limite, c'est notre imagination.
Réinventer l'humain et la manière de fonctionner, ça va être pas mal, je pense.
Moi, je trouve que c'est un super projet.
Carrément.
Ouais.
Eh, merci.
Ben, merci à toi, c'était une super conversation.
On a pas... Ça fait 2h10 qu'on chatte, tu te rends compte?
C'est passé, mais super vite. Alors, je n'ai pas
Super.
commencé à l'écoute, tu vois, mais en discutant avec toi, je trouvais ça. Voilà,
Ah, moi, je m'en bats les wecks, hein. S'ils s'ennuient, ils ont qu'à zapper. Moi, je me suis éclaté. Hey, merci beaucoup, Joël. C'était hyper cool. Et je fais un récap tout de suite après, une fois qu'on aura accroché des livres et du site, etc.
génial.
Pour faire des formations chez toi, c'est Selops Consulting aussi.
Ouais, on peut s'adresser là-bas. Ouais, c'est l'Obs tout court. Donc,
Selops tout court. Ça
ouais.
marche. Bon, je vais lister tout ça. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi, c'était top.
Yes, prends
Allez.
soin de toi.
Ouais, et bah, on se contacte tout bientôt aussi pour venir former tes gars et tout ça.
Ouais, carrément. Nous,
Par
on
une
est. Moi, je suis hyper chaud. Ils sont hyper chauds. Juste, on est un peu con, hein, au niveau des plannings et on est en train de galérer avec un doodle pour mettre tout le monde d'accord sur une date, tu vois. Enfin, au moins
D'accord.
quelques dates, mais ça va se faire. Et avec joie, on vous paye les côtes de bœuf et les bières qui vont avec.
Ça va être génial. Ça va
Grave.
être génial. Top.
Grave. Yes, bon, je t'en tiens
Fort
pas
bien
plus
à plus.
longtemps. C'était hyper cool.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Ciao.
Va bien. Ciao.
Allez, je raccroche. Alors, comme prévu, la bibliographie de Joël. Alors, Karmafrika aux éditions Memory en 2009. Mais ce qui persiste en moi est ce fragment d'inhumanité, toujours aux éditions Memory 2011. Chronique d'un départ. Parti pour, édition en 2017. Secourir en zone hostile. Alors, super bouquin de premier secours en milieu éloigné, hostile, etc. Aux éditions Memorabilia 2019, qui va être réédité bientôt en mai 2022. Il y a une nouvelle version qui sort. Ça vaut peut-être la peine d'attendre celle-ci. Vers Varsovie. Parti pour, édition toujours 2019. Les survivants de l'extrême. Que j'ai eu l'honneur de préfacer aux éditions Memorabilia en 2020. Secourir en situation dégradée. Alors, c'est un espèce de petit guide compact relié en spirale, très pratique pour avoir dans le sac ou dans la poche et qu'il faut lire aussi évidemment avant. Memorabilia toujours, 2020. Version anglaise de se secourir en zone hostile. Aussi qui existe, vers Sarajevo, parti pour édition 2021, et donc apparaître, pardon, secourir en zone hostile, deuxième édition, toujours chez Memorabilia, apparaître en mai de cette année, vers Syracuse, parti pour édition novembre 2022. Voilà, si vous voulez retrouver Joël sur LinkedIn, et bien c'est Joël Schuermans, Schuermans. Tout attaché après LinkedIn, sinon vous le recherchez dans LinkedIn, vous allez le trouver. Joël est fondateur et directeur médical de Celops, celops.org, CELOPS.org, qui est donc un organisme de formation en premier secours, cofondateur aussi de la marque Solution Trauma. Et donc ils vendent des kits médicaux qui sont hyper bien faits avec des petites pochettes à scratch pour l'avoir toujours sur soi. Donc Solution au pluriel, S-O-L-U-N, pardon, S-O-L-U-T-I-O-N-S-T-R-A-U-M-A, ok, solution au pluriel trauma tout attaché.com. Il y a des programmes aussi qui ont été créés par Joël, donc sesecourir.fr, tout attaché. Joël est aussi directeur opérationnel et médical de Wildlife Angel, c'est une ONG anti-braconnage. Vous pouvez retrouver cet asso sur www.wilang.org. Et puis aussi Joël pour terminer, et donc directeur médical de T3 Aventure, où ils font des expéditions transcontinentales à moto, c'est donc par eux qu'il est parti traverser tout le continent eurasien l'an dernier, donc t3.fr. Voilà, sinon Joël est évidemment rédacteur en chef des magazines Survival, Bushcraft Mag qui va sortir bientôt, et Slow Trip Magazine. Plein de super projets. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil à tout ça. Si vous voulez soutenir notre podcast, vous allez sur survivologue.org. Il y a un petit onglet soutenir, vous pouvez faire un petit don à partir de 1 euro par carte bancaire, c'est sécurisé et tout. Et sinon, vous pouvez évidemment nous donner du feedback, poser des questions, soit sur le blog, soit directement sur ma boîte mail, david.manise@gmail.com. Soit sur Messenger, Instagram, peu importe. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, @survivologue. Il y a toujours des petits updates des invités. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Succès inespéré de ce podcast. On a franchi allègrement les 12 000 écoutes là. Et je suis assez surpris du succès et des retours super positifs qu'on a. Donc voilà, j'en tiens compte de vos feedbacks et aussi des commentaires positifs, parce que ça m'aide à orienter un peu pour faire encore mieux et toujours progresser. Voilà, donc merci à tous. Restez pipous.